Aujourd'hui, nous allons être combatifs, assertifs et, je l'espère et je n'en doute pas, instructifs. Nous allons, alors je vais laisser tous nos intervenantes et mon camarade se présenter. Et en tout cas, aujourd'hui, le thème est donc scénariste, leçon d'autodéfense. Mais de quoi va-t-on parler ? Bah, vous allez le découvrir. Avec les combattantes, nous avons la bride qui veut tuer Bill du syndicat des scénaristes, Sophie Lundqvist. Nous avons la Wonder Woman du droit d'auteur, Stéphanie Le Cam, de la Ligue des auteurs professionnels. Et, attention, tu vas voir quoi, toi ? Tu vas voir l'impératrice Furiosa, qui protège ses talents à travers le désert. Et mon camarade, le Bruce Lee de la modération, Alban Ravassar. Et moi, je serai votre Jeannette Claudine Vandamme pour commodérer avec mon camarade Alban. Avant de lancer les hostilités et festivités, un petit mot sur la FAMS. Donc, c'est une fédération qui rassemble plusieurs associations professionnelles de scénaristes, qui a été active en tant qu'association de 2019 à 2025, qui a clos ses activités culturelles et associatives, mais qui reste une bannière ouverte pour que les 15 associations professionnelles et autres associations intéressées plus tard puissent continuer de discuter entre elles. On a surtout couvert une question de la territorialité, c'est-à-dire qu'on avait plusieurs associations dans différentes régions, et chaque région a évidemment ses thématiques propres, et notamment comment des scénaristes, en dehors du cercle francilien qui concentre, vous le savez sûrement déjà, l'essentiel de la profession audiovisuelle et cinématographique, peut se décentraliser et continuer à faire ce qu'il faut pour que les scénaristes puissent travailler de n'importe où. Nous avons produit différents documents que je vous invite à découvrir sur le site internet de la FAMS, qui restera ad vitam aeternam à disposition, des documents que vous pouvez télécharger gratuitement. On a des livres blancs, des livres de réflexion sur des thématiques diverses, l'émergence des scénaristes, les métiers de consultants et de lecteurs-lectrices, la question de l'enseignement, apprendre à devenir scénariste et enseigner le scénario, et j'oublie le quatrième, Alban. Voilà, ça va me revenir. Nous avons également fait plusieurs tables rondes, beaucoup ont été captées en vidéo ou uniquement en audio, vous les retrouverez également sur le site, sur des thématiques très différentes, et nous avons fait les assises de la fédération pour conclure notre grande activité globale culturelle en septembre dernier et au Forum des images. Et vous pouvez aussi retrouver beaucoup d'éléments sur le site. Enfin, pour conclure sur la partie bibliographique, nous avons produit ces magnifiques petites brochures pédagogiques à destination du public apprenant, jeune public et de vos familles. Si vous êtes scénariste et que vos familles ne savent pas ce que vous faites, vous pouvez leur montrer ça. Il y en a une pour les scénaristes, il y en a une pour les réalisateurs et réalisatrices, il y en a une pour les producteurs et les productrices. Ce sont les vrais faux, ce sont les idées reçues qu'on a sur ces métiers et comment justement les combattre ou les confirmer, mais avec plus de pertinence. Elles sont rédigées par moi et illustrées par la magnifique Rosalie Loncin, à télécharger gratuitement tout cela sur le site de la FAMS. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Pour commencer les présentations, je suis Rémi Grelot, scénariste et réalisateur. Je suis également enseignant en scénario. Je fais partie des membres fondateurs de la FAMS. Et vous pouvez suivre mes passionnantes aventures sur Instagram, @violettemessager. À toi, cher Alban.
Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Alban Ravassar. Je suis scénariste, réalisateur. Enseignant en réalisation, moi, pour le coup, et créateur d'un podcast Réal Réel sur la réalisation et la mise en scène. Et membre fondateur de la FAM, c'est aussi du syndicat des scénaristes, dont on reparlera avec Sophie tout à l'heure. Je passe la parole à Solène.
Bonjour, donc moi je m'appelle Solène Edouard, je suis agente artistique, je suis juriste de formation, j'ai eu un parcours un peu compliqué pour arriver jusqu'à agente artistique. Voilà, je suis fondatrice d'une agence qui s'appelle SE Talent Management et on représente essentiellement des auteuristes émergents, émergentes. Et voilà, et je suis accompagnée dans l'agence par Marie Clausier qui est également ici.
Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Stéphanie Lecam, je suis maître de conférence à l'université Rennes 2, spécialiste de droit d'auteur et de statut, ou plutôt d'absence de statut des artistes, auteurs et autrices. Et par ailleurs, je dirige un syndicat d'auteurs et autrices du livre, qui est la Ligue des auteurs professionnels, voilà, depuis 5 ans.
Bonjour, donc moi je suis Sophie Ludwitz, je suis scénariste depuis 2008. J'écris particulièrement pour l'animation, pour la télé, mais pas seulement, du long métrage aussi. Et donc je suis invitée là en tant que membre du syndicat des scénaristes et membre fondateur du syndicat.
On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Donc on parle de leçons d'autodéfense. Donc avant de vous apprendre les claquettes ninja verbales qui permettent de mettre les producteurs à terre, on va revenir aux bases, c'est-à-dire c'est quoi un scénariste, c'est quoi un auteur au sens large, puisqu'on parlait aussi du livre. Et donc ça pose fondamentalement la question du statut, que ce soit social, juridique.
Et donc je vais commencer, je vais faire court, mais effectivement être scénariste, c'est être auteur, et la notion d'auteur, elle renvoie d'abord au code de la propriété intellectuelle. Donc être auteur, c'est être à l'origine d'une création qui est une œuvre de l'esprit. Tout ça est très romantique, c'est important qu'on se mette un peu dans l'ambiance, parce que je pense que c'est ce qui justifie aujourd'hui qu'on a du mal à reconnaître une protection à la hauteur des enjeux pour les scénaristes, c'est qu'on les conçoit comme des génies, je dis souvent, au service de l'élévation du fond commun des connaissances. Donc, vous voyez, on est entouré de génies aujourd'hui, et je pense que ça vous fait tous énormément de bien d'être dans cette salle. La question, c'est est-ce que le génie remplit le frigo ? La réponse, on va le voir, elle n'est pas si évidente. Alors, être auteur, c'est être titulaire de droits de propriété intellectuelle, on y reviendra, et être scénariste, c'est parfois aussi être artiste-auteur. Et artiste-auteur, c'est une notion qui renvoie cette fois au code de la sécurité sociale. Et là, ça s'approche au régime social. C'est-à-dire, on peut être salarié. Eh bien, un scénariste, globalement, généralement, est artiste-auteur. C'est-à-dire qu'il est un artiste-auteur indépendant, rattaché à un régime social spécifique, dont on aura l'occasion de présenter aussi les principaux traits. Et souvent, ça fait de lui un indépendant. Donc, il est un peu bloqué, comme ça, entre deux branches du droit. L'une qui le voit comme un génie qui n'a pas besoin de remplir son frigo, et l'autre qui le voit comme un être qui a besoin d'une protection sociale, mais malheureusement qui n'est absolument pas finalisée et encore incomplète.
Oui, Stéphanie, justement, je lis dans cette très belle brochure que les scénaristes ne sont pas des intermittents du spectacle. Tu peux nous expliquer la différence pour que tout le monde soit
bien...
Oui,
c'est important. Alors évidemment, on parle d'un régime qui va nous permettre, quand on est intermittent du spectacle, d'être rattaché à... en tout cas, de bénéficier d'allocation chômage, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Je dis pour l'instant parce qu'il faut être optimiste et que 2025, c'est fini sur un rejet d'un texte ô combien fondateur, mais qui peut-être sera mis au vote en 2026 et nous permettra de considérer les artistes auteurs de la même façon que beaucoup de salariés, c'est-à-dire avoir le droit d'être rattachés au régime chômage, en quelque sorte. Là, les scénaristes sont vraiment des indépendants. Alors, ça veut dire que, concrètement, leur régime est façonné par, d'abord, des relations individuelles. Le scénariste va signer des contrats, on va y revenir, et c'est par ces contrats qu'il va pouvoir organiser la cession de ses droits, et en contrepartie de quoi, il devrait normalement toucher des rémunérations appropriées et proportionnelles. On va y revenir. Il y a un autre aspect qui est la protection sociale. La protection sociale, c'est un deuxième axe dans ce statut. C'est qu'effectivement, en tant qu'artiste-auteur, il est rattaché à un régime qui est lui-même associé au régime général. C'est-à-dire que les scénaristes sont en quelque sorte, eh bien, fictivement, assimilés à des salariés pour leur protection sociale, sauf qu'elle n'est pas complète, puisqu'il n'y a justement pas de protection pour le chômage et il n'y a pas non plus de protection pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ça sera important d'y revenir.
Et donc, il y a un mot qui revient beaucoup quand on parle de scénariste et d'artiste-auteur, c'est précarité. Mais je reviens sur ce que tu disais, Stéphanie, tu dis qu'il devrait normalement être rémunéré, c'est important de le dire. Ça nous amène gentiment à la question des contrats, en fait, qu'on signe en tant qu'auteur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Quels sont les types de contrats qu'on peut signer en tant qu'auteur ? Les problématiques qu'on peut rencontrer avec ces derniers ?
En gros, on va signer deux types de contrats. Le premier qui est un contrat d'option. Donc, en fait, le contrat d'option, c'est un contrat qui est souvent de courte durée, je veux dire entre 12 et bon, ça peut aller plus loin, mais en tout cas d'assez courte durée. Et c'est un contrat qui permet de bloquer les droits sur quelque chose que vous avez déjà écrit, que ça soit un scénario de long métrage, de court métrage ou un dossier de série télé, etc., etc. Donc en gros, ça empêche les autres. Donc c'est un contrat qu'on va négocier avec un producteur ou une productrice. Et ça bloque les droits, ça veut dire que vous n'avez pas le droit de les vendre à quelqu'un d'autre, et cette personne va avoir le droit exclusif de démarcher des partenaires pour faire avancer ce projet. Donc ça, c'est un contrat d'option. Le deuxième contrat qu'on va avoir, et on peut commencer par un contrat d'option, l'autre contrat qu'on peut avoir, c'est un contrat de cession de droits. Donc là, autant le contrat d'option, il bloque les droits, mais ils ne sont pas transférés, ils ne sont pas lus. Le contrat de cession de droits, ça va permettre au producteur ou à la productrice de pouvoir fabriquer, produire, fabriquer, puis commercialiser et exploiter votre travail. Donc là, dans une contrat d'option, on va avoir une rémunération qui est un montant forfaitaire. Ça peut aller de 50 euros pour un court-métrage, 10 000 euros pour une Bible. Enfin, en tout cas, ça va se négocier. Mais ça va être juste un montant pour la durée pendant laquelle les droits sont bloqués. Et puis, pour un contrat de cession de droits, on va avoir deux éléments de rémunération, deux types d'éléments différents de rémunération. On va avoir ce qu'on appelle un minimum garanti. Alors, dans l'édition, on appelle ça une avance. En fait, c'est une avance, c'est-à-dire une somme en euros qui va vous être versée. Et cette somme, c'est une avance sur le produit de l'exploitation de votre travail. Donc, en fait, le producteur ou la productrice va vous verser un certain montant qu'on va négocier. Donc, tout ça, c'est des choses à négocier. À chaque fois que je vous dis ça dépend, etc., etc., la durée de l'option, le montant de l'avance ou du minimum garanti, etc., tout ça, c'est des éléments de négociation. Et donc ça va être une avance, ce minimum garanti ou cette avance, va être donc une avance sur ce que va rapporter l'exploitation de vos droits. Donc on va avoir ces deux éléments-là dans le contrat, on va avoir le montant global. Alors ce montant peut être parfois à zéro, on peut effectivement avoir juste une cession de droit sans minimum garantie. Et des pourcentages pour chaque exploitation. Donc pour chaque exploitation, si ça passe au cinéma, si ça passe à la télé en Bulgarie, c'est édité en bonus d'un DVD, etc., etc. Donc pour chaque exploitation de votre œuvre, il va y avoir un pourcentage. Souvent, si vous avez déjà vu des contrats, ça commence par un zéro et une virgule, et après ce qu'il y a derrière. Et donc ça vient d'abord rembourser cette avance que vous avez touchée. Et une fois que vous avez tout remboursé, là, ça commence à vous rapporter de l'argent.
Mais dans ce que tu décris, j'ai l'impression qu'en fait, on rémunère pas un scénariste, j'ai l'impression qu'on rémunère un texte. Quelque chose me dit qu'un syndicat que je connais a une position là-dessus.
Oui, alors effectivement, tu es plutôt bien placé pour savoir ce qu'on en dit. Oui, effectivement, au syndicat des scénaristes, c'est un de nos gros combats, c'est de militer pour que ce soit le scénariste qui soit payé et non plus l'œuvre, puisque comme Solène vient de le décrire, actuellement, les contrats sont faits sur l'option ou sur l'achat de l'exploitation d'une œuvre à venir, et pas du tout sur le travail du scénariste au moment où il le fait. Dans le cas du contrat de commande dont tu parlais, donc on laisse de côté l'option, on est vraiment sur un cas donc, où on propose une somme qui sera globale si et seulement si on va jusqu'au bout du texte, et qui en plus commencera à rapporter de l'argent si et seulement si l'œuvre est exploitée dans des endroits où, à des guichets où, qui génèrent de l'argent, parce que même ça, c'est même pas complètement sûr. Donc en fait, on est sur une prise de risque totale par le scénariste. Il y a toute une part d'argent qui est imaginaire, presque, qui est très théorique, quoi. Je pense que je réponds à peu près à ta question. Ensuite, moi, je voulais apporter une petite précision, toujours par rapport à ce que Solène disait. En animation, parce que du coup, je vais parler un peu de ce domaine que je connais, mais qui est transporté pas mal en fiction, ça doit être valable aussi. Quand on est embauché sur une série, on a un contrat d'épisode avec un minimum garanti qui n'est pas à zéro. On touche de l'argent. Si on va jusqu'au bout de l'épisode, on touche l'intégralité de ce qui a été promis au début. Mais les fameuses RNPP dont parlait Solène sont bien souvent à zéro, alors même que nos épisodes sont multidiffusés dans le monde entier. C'est-à-dire que depuis quelques années, nous, on reçoit les producteurs ont l'obligation de nous envoyer des papiers qui font le récap, en gros, de tel épisode que vous avez écrit en... Ouais, les rééditions de compte, merci, ça ne me venait pas. Tel épisode que vous avez écrit en 2012 a été diffusé, mais comme on vous avait déjà donné 2600 euros, eh bien, vous nous devez encore 2437, et peut-être que dans 25 ans, vous aurez une somme, quoi. Et donc ça, maintenant, on ne les reçoit pas de tous les producteurs malgré l'obligation, mais moi, je reçois de quelques producteurs ces papiers qui, en plus, souvent, c'est des petites liasses, parce qu'ils mettent, je ne sais pas, il y a plein de lignes, et la conclusion, c'est toujours, on vous doit zéro.
C'est vrai que ce sont des travailleurs... Là, vous m'entendez de toute façon, c'est bon. Ce sont des travailleurs, c'est quand même... Les artistes-auteurs sont les seuls travailleurs qui bossent à débit. C'est-à-dire qu'ils reçoivent une somme d'argent qui, juridiquement, n'est ni plus ni moins qu'une dette que l'on contracte. Alors évidemment, quand on dit ça en concertation collective, ils nous disent « Mais n'importe quoi, jamais il nous viendrait l'idée d'aller vous demander de nous rembourser la somme qui ne serait pas complètement amortie. » Alors c'est vrai qu'en pratique, il n'y a pas de demande de remboursement, mais techniquement, quand on reçoit nos redditions de compte, la somme apparaît en négatif et on doit encore de l'argent. Et tant qu'il n'y a pas eu suffisamment d'amortissement, on est débiteur. Ça, c'est quand même important de le rappeler.
Alors après, juste une précision, dans les contrats en audiovisuel... maintenant, quand il y a une commande, on a une obligation qu'il y ait une partie qui ne soit pas à rembourser. Donc il y a au minimum 30% qu'on appelle une prime de commande ou une prime d'inédit, où là, effectivement, on rémunère toujours l'œuvre. Hein, mais en tout cas, on ne vous demande pas de rembourser 100%, mais juste 70%.
C'est déjà bien. Deux choses pour revenir sur les contrats, puisque tu dis, Solène, que tout est négociable. On voit très bien que tout de suite, il y a un rapport de force qui n'est pas forcément égal. J'aimerais bien qu'on évoque ça, mais surtout, pour entrer dans le concret, quel intérêt est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on doit négocier un gros minimum garanti en se disant que c'est super, j'aurai ça, même si l'œuvre n'est pas créée et exploitée ? Ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux ne pas le faire pour se baser sur l'indexation et l'exploitation plus tard ?
Pourquoi choisir ? J'ai un peu envie de dire. Voilà, pourquoi ne pas avoir les deux ? C'est assez intéressant parce que justement, enfin, moi je trouve que c'est vraiment passionnant de faire les maths, quoi. En fait, nous, beaucoup, en tout cas, quand moi je reçois des propositions contractuelles, on fait les calculs. On fait les calculs et on dit, mais avec ces rémunérations proportionnelles-là, à 0,0 quoi que ce soit, en fait, il faudrait, si on prend par exemple l'exemple du cinéma, parce que ça va être plusieurs parlants, on dit qu'il faut faire genre 4 millions d'entrées, en fait. Et donc là, vous êtes en train de nous donner des rémunérations qui vont faire qu'on n'aura pas du tout, on sait qu'on ne verra jamais la couleur de ces montants-là. Donc j'ai un peu envie de dire, effectivement, si on a du mal, et ça fait partie de la négociation, évidemment, en tout cas... nous, c'est la manière dont on travaille, c'est-à-dire que le principe, c'est pas pour moi, enfin pour nous, on n'est pas contre les producteurs, parce qu'on a tous besoin les uns des autres, en fait. On va pas faire des films tout seul dans notre coin, et si on négocie avec des producteurs et des productrices, c'est aussi parce qu'on a besoin d'eux et qu'on a besoin qu'ils fassent leur métier. Donc l'idée, c'est d'aller trouver ce point d'équilibre. Donc c'est pas forcément de dire bon bah voilà, on n'a pas besoin des gens. Donc c'est de trouver ce point d'équilibre. Et dans ce point d'équilibre, si on est avec une boîte de production qui commence, qui n'a pas de fonds de soutien, qui a très peu de fonds, etc., on peut accepter à un moment donné de prendre des risques tous ensemble. Eux, ils prennent des risques sur le minimum garanti qu'ils vont nous donner. Et à ce moment-là, nous, on va prendre des risques en disant bon, ok, bah, on va prendre un petit minimum garanti. Mais déjà, on va, et ça fait partie des négociations, on va déjà demander quand même une somme particulière le jour où c'est mis en prod, parce qu'à partir de au moment où on est mis en prod, on est quand même beaucoup moins en risque. Si on décide de mettre en production, c'est qu'on estime qu'on a les financements nécessaires pour y arriver, première chose. Et en échange, on va demander des sacrées rémunérations proportionnelles. Et ça, on va sortir du 0, quelque chose, on va aller chercher des 4, des 5, des 6, etc., etc. En disant, attendez, moi je prends un risque maintenant. Si jamais on arrive à faire ce film, donc on le met en prod, déjà j'ai une première récompense, en tout cas je suis valorisée pour ça. Et si en plus le film marche, je participe à ça. Donc en fait, c'est vraiment, c'est intéressant, et c'est ce qu'on se disait en préparant ici, c'est intéressant d'avoir une vision macro du truc, de pas justement regarder juste le minimum garanti, etc. Non, qui on a en face de nous, qu'est-ce qu'on veut faire comme film, qu'est-ce que ça a comme potentiel commercial, parce qu'on sait déjà le film qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on est en train de faire un film qui va faire 10 millions d'entrées, ou est-ce qu'on sera content si c'est un film d'auteur où on est à 100 000, etc., etc. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est dans cette globalité-là que ça va nous permettre de négocier un accord qui est équilibré de chaque côté.
Ça marche, ouais. Sachant que tu évoques 4 millions d'entrées pour que les remontées de recettes commencent. Pour information, il y a un seul film qui a fait plus de 3 millions d'entrées l'année dernière, c'est Les Tuches. Voilà. Donc autant vous dire que 4 millions d'entrées, ça reste juste un horizon de mirage, quoi. Pour rebondir sur ce que tu dis, quels sont les leviers de négociation ? Parce que on peut se retrouver seul ou avec un agent. Donc déjà peut-être parler du rôle de l'agent dans cette négociation-là, ou quand on n'a pas d'agent, justement, en parlant de leçons d'autodéfense, comment est-ce qu'on s'y prend ?
Je ne sais pas, tu veux répondre, Sophie, sur là-dessus ? Ouais.
Quand on n'a pas d'agent, je pense que c'est extrêmement compliqué. Moi, je n'ai pas tenté de faire des négociations sans agent. Parce que si je reparle du syndicat, pour le coup, on n'a pas cette capacité d'aller défendre nos membres directement dans des cas particuliers. Donc soit vous êtes hyper calé en juridique, mais vraiment, il faut être armé. Je pense pour lire un contrat d'auteur, c'est 25 pages avec des trucs très techniques. Donc c'est vrai que pour moi, l'agent est quand même vraiment utile. Et je préférerais que tu prennes cette partie.
Non, je voulais pas trop faire corpo, c'est pour ça.
Vas-y, on est là pour ça aussi.
Non, moi je trouve que déjà le premier rôle de l'agent, c'est de vous permettre, vous les auteurs et les autrices, de rester dans une relation artistique avec votre producteur ou votre productrice. Et donc ça, c'est assez précieux, en fait. C'est-à-dire qu'on se rend compte que si on est là, et c'est un peu ce que disait Stéphanie tout à l'heure, en fait, et c'est ça qui est compliqué, c'est que comme vous êtes des indépendants, toutes les semaines, vous devez à nouveau renégocier, c'est comme si vous alliez revoir votre DRH pour renégocier un poste avec une rémunération qui va avec. C'est épuisant, en fait. Si vous faites ça tout le temps, non seulement c'est épuisant, on n'a pas tous les qualités, et même il y en a qui les ont et qui voilà, qui n'ont pas particulièrement envie de faire du juridique quand ça les concerne, en fait. C'est qu'à un moment donné, ce que vous voulez, vous, c'est écrire des histoires. Donc si les relations avec votre producteur ou votre productrice, c'est autour de points de négociation, c'est compliqué. Surtout que ce genre de négociation, comme j'ai décrit là, en disant, écoute, là, tu es en train de me dire, tu me proposes des rémunérations proportionnelles qui sont tellement nazes qu'il va falloir que je fasse 4 millions d'entrées pour que je commence à toucher quelque chose. Je veux dire, c'est pas des conversations, c'est un peu... Les Américains, ils disent, il ne faut pas qu'on vous voit comment on fabrique les saucisses, quoi. Moi, je dis ça, ça fait un peu des conversations de marchands de tapis. Donc là, on est en train de parler de votre œuvre, on est en train de parler de création, non pas que de garder forcément cette option romantique, mais globalement, c'est quand même un peu choquant que chaque jour, vous deviez quand même un peu défendre votre bout de gras de manière pas très classe pour pouvoir continuer à travailler. Donc moi, je trouve que l'intérêt d'avoir un agent ou une agente, c'est surtout de vous permettre, vous, de rester dans une relation... artistique, stratégique, avec les gens qui vont fabriquer le film avec vous, enfin, le développer et le fabriquer, et ne pas être dans des conversations. C'est pas parce qu'on parle d'argent, c'est juste que c'est de la négociation, un peu, on est là à négocier des demi-points de pourcentage, donc ça c'est un peu compliqué. Après, l'autre chose sur laquelle je trouve ça intéressant d'avoir un agent, c'est d'avoir une vision un peu globale. de quel est le marché aujourd'hui, combien ça coûte, enfin en tout cas d'avoir une vision un peu collective des choses et d'avoir un peu du benchmark sur aujourd'hui avec tel type de producteur ou tel type de productrice, est-ce que si on me propose 4000 balles pour une option, je suis en dessous ou je suis globalement dans le marché en fonction de où moi je suis dans le métier. Donc c'est vraiment une question aussi de benchmarking qui va être intéressant. Et puis nous, ce qu'on fait aussi dans l'agence, c'est faire beaucoup de pédagogie. En fait, c'est vraiment d'expliquer chaque point du contrat, pourquoi c'est écrit comme ça, qu'est-ce que ça veut dire. Et ça, effectivement, on n'a pas forcément tous les compétences pour le faire.
Puis il y a une notion temporelle. Tu voulais réagir sur
ça ? Oui, je voulais juste rajouter un petit truc par rapport à la première partie de ce que disait Solène. Alors, à la fois, moi, vraiment, d'un point de vue personnel, j'ai plein de discussions que je n'ai pas du tout envie d'avoir avec les producteurs, tout ce qui est argent, contrat, parce que, comme tu disais, mon cerveau, il n'est pas constitué pour ça, et j'ai pas envie, en fait. Ce n'est pas que je ne suis pas capable, c'est vraiment... je ne veux pas tout mélanger. Par contre, je trouve que c'est important, quand tu rebondissais sur ce que disait Stéphanie en intro, sur la vision romantique de l'auteur, c'est important quand même que ça reste un sujet. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste dire « Ah oui, non, mais moi, je ne sais pas comment je me nourris, ça repose sur les épaules de quelqu'un d'autre. » Pour moi, il faut quand même pouvoir verbaliser au producteur que là, sa proposition est offensante ou que là, en fait, s'il ne vous paye pas la prochaine échéance, vous avez des problèmes pour payer votre loyer. Et c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas rentrer dans le détail des négociations aussi parce que je n'ai pas les connaissances juridiques et évidemment que mon agent m'apporte des choses que moi je peux pas faire, et aussi parce que c'est hyper confortable de pouvoir dire ah non mais là c'est mon agent qui veut pas. Moi j'adore sortir cette carte en disant je suis désolée mais là je peux pas rendre le texte parce qu'il faut payer d'abord. Enfin c'est confortable, mais par contre ça ne doit pas nous priver de ramener toujours l'activité d'écriture au fait que c'est un travail et pas qu'un plaisir. Si on veut écrire pour son plaisir, on peut le faire pour soi, mais alors il n'y a pas quelqu'un qui valide le texte et ça reste un journal intime, quoi. Voilà.
Non, mais c'est très bien ce que tu dis, et ça rebondit sur ce que j'allais dire, c'est que la notion temporelle aussi des négociations, parce que je sais qu'on en parle souvent, Solène, mais maintenant toutes les boîtes ont des services juridiques qui adorent chercher la petite bête, et des négociations peuvent durer jusqu'à des 6 mois, je crois, des choses comme ça. Hein. Donc c'est 6 mois pendant lesquels vous n'êtes pas rémunéré, puisque le contrat n'existe pas, donc...
Alors là, moi, j'ai commencé à demander des avances à tout le monde. c'est de pire en pire, en fait. C'est de pire en pire, notamment dans l'audiovisuel, où on a maintenant vraiment des studios, en gros. Et toutes les boîtes sont, en gros, dans 3 à 4 endroits, 4, globalement. Et donc, on a des services juridiques qui vont tout centraliser. Et c'est impossible. C'est impossible. Là, moi, j'ai un projet qui part en chaîne aujourd'hui. Je n'ai pas de contrat. Je n'ai jamais vu les contrats. On ne m'a même... C'est pas qu'on n'a pas signé. C'est que je n'ai même pas vu une première version. Je me suis vraiment énervée la semaine dernière. Et j'ai de nouvelles de personnes. Voilà, après c'est une grosse chaîne, c'est un gros projet, donc pour l'instant on a fonctionné avec des avances, mais c'est globalement pas comme ça que ça devrait fonctionner. Voilà, non, c'est non, là on est vraiment. Et donc moi, l'auteur en question a râlé, moi j'ai vraiment hurlé dans mon téléphone, mais on est face à des services juridiques qui effectivement sont tellement centralisés qu'on doit être la priorité numéro 50. Donc on se retrouve dans des situations qui légalement ne vont pas. Et moi je pense que ça c'est des choses qu'il faut faire aussi remonter. Donc il y a le rôle des agents, clairement, mais pour moi, et c'est pour ça que je suis aussi là à cette table ronde, il y a le rôle des syndicats. Ça, c'est vraiment des choses qu'il faut faire remonter individuellement à vos syndicats, parce que ça permet d'avoir aussi un peu une vision globale des pratiques, ou des mal-pratiques qu'il y a dans le secteur, et ça permet d'avoir des réponses collectives. en fait, par rapport à ça. Donc quand on se rend compte qu'on a à peu près la même attitude de la même boîte, bah déjà ça nous donne une indication, ou la même attitude de plusieurs boîtes différentes qui, surtout entre elles, ont à peu près 90% du marché, par exemple, ça nous permet d'avoir des activités, enfin des actions collectives. Donc moi, ce qui me semble vraiment important sur cette question de la temporalité, c'est évidemment de travailler sur ces questions individuellement, comme le disait Sophie, de dire bah non, mais là, moi, il faut que je paye mon loyer, en fait, donc là, je suis dans la merde. Que nous, les agents, on le dise de manière un peu plus vive et ferme, quitte à dire bah on rend pas les textes ou on envoie des recommandés en disant aux diffuseurs en disant que vous avez pas les textes. Donc on a des moyens de pression pour le faire, mais je pense sincèrement que ce qui est aussi important, c'est l'action collective au sein des syndicats de faire ressortir ces pratiques et donc de les faire remonter à chaque fois que ça se passe.
Et j'en viens, parce que là, on merci pour tout ça, et justement, ces explications, l'importance que l'agent peut évidemment avoir. Le paysage est comme ça assez impressionnant. Pour les émergents, les émergentes, les personnes qui sont en début de carrière, qui ne vont pas encore avoir d'agent ou d'agente, quoi faire ? Du coup, ça a l'air un peu désarmant comme ça. Bah justement, tu commençais à répondre, c'est que il y a forcément la question de sortir du romantisme de l'auteur, l'autrice isolée dans sa tour d'ivoire inspirante et de commencer à réfléchir en termes de solidarité et de partage des compétences et des connaissances. Et justement, qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas encore d'agent, d'agente pour trouver des informations juridiques et trouver aussi une forme de solidarité avec des pairs, P-A-I-R-S. Et est-ce que, justement, moi, je sais qu'au sein d'un syndicat, on peut échanger des informations pratiques. Je sais qu'il est possible, peut-être, pour des scénaristes, s'ils en ont les moyens, d'aller voir un avocat. Est-ce que vous pouvez un peu approfondir ces pistes pour, justement, où est-ce qu'on glane un peu ses propres infos pour, quand on se retrouve devant un prod, à défaut d'avoir la force de pouvoir négocier, au moins de savoir à quel moment on se fait peut-être abuser ? Question ouverte.
Ouais. Bah, oui, du coup, le premier point de l'autodéfense des scénaristes, je pense qu'effectivement, ça c'est sûr, ça passe par du collectif, rencontrer ses pairs, comme tu le dis, discuter avec eux. Et alors, une fois que vous rentrez dans cette démarche, que vous cherchez à rencontrer d'autres scénaristes, vous allez avoir le choix entre plusieurs associations ou syndicats qui sont plus ou moins capés ou équipés de manière différente. Du coup, je vous inviterai à bien regarder les projets et les valeurs de chaque organisme. Nous, par exemple, du coup, pour parler de celle que je connais le mieux actuellement, donc au syndicat des scénaristes, on a un truc très fort, c'est de la valeur de transmission et de transparence, c'est-à-dire que tous les membres ont accès au même serveur Discord où tout est discuté. Et du coup, sur ce Discord, vous avez à la fois des auteurs qui travaillent depuis très longtemps, qui sont syndiqués depuis très longtemps, qui ont des connaissances juridiques que quelqu'un qui arrive n'a pas. Mais on part vraiment du principe, et c'est répété tout le temps, qu'il n'y a pas de questions bêtes, qu'il n'y a pas de questions à laquelle on a déjà répondu et à laquelle on ne répond plus. On répète. Et c'est en répétant comme ça qu'on se forme tous. Et ça, franchement, c'est hyper précieux. Mais quel que soit, je pense, le niveau d'expérience qu'on a chacun, on apprend vraiment. Et effectivement, on partage des expériences. Parfois, rien que dire « Ah, ben moi aussi enfin, », c'est les fameux MeToo, ça fait du bien. Et aussi émergent des débuts de solutions. Et je sais qu'on en parlera plus tard, mais c'est de cet engagement, cette prise de conscience, pardon, que le problème est structurel, qu'on a une vision romantique de l'auteur et que c'est de ça qu'il faut sortir, que naît finalement le combat de l'intersyndical autour de la proposition de loi. C'est qu'à un moment, on est très conscient que ça ne peut plus être un problème personnel de Justine, 25 ans, qui a une super idée de scénario et qui n'a pas encore d'agent, et qui ne peut pas se défendre toute seule, qu'en fait c'est un problème de vision de c'est quoi un travail d'auteur aujourd'hui, quelle est la place qu'on donne à l'auteur, comment on rémunère ce travail, comment en fait on considère que Justine a un corps Enfin voilà. Et je crois que je viens de me perdre un petit peu, mais en gros c'est ça. Donc il y a plusieurs syndicats et plusieurs organisations. Je ne vais pas prétendre qu'on est les seuls. Par contre, au moment où vous essaierez de vous tourner, il y a des gens qui s'adressent plus ou moins aux scénaristes émergents. Mais en gros, même des groupes de scénaristes qui vous sembleraient peut-être un peu inatteignables, ça vaut le coup de les contacter. Parce qu'en vrai, on est, par exemple, au syndicat des scénaristes, on est très content d'être contacté par des émergents et de voir comment on peut aider, accueillir. Voilà.
Moi, je voulais juste ajouter deux choses. Ah, pardon, non, vas-y. Non, j'ai beaucoup parlé, vas-y.
Non, mais...
non, sur le collectif, moi, j'ai remarqué qu'il y a aussi des collectifs de scénaristes qui se créent pas forcément autour d'un syndicat, mais justement, peut-être que ce sont des gens qui se sont rencontrés dans un syndicat, mais qui commencent à travailler ensemble. Et ça, je pense que c'est aussi intéressant de ne pas être seul... en fait, dans sa création ou dans ses négociations, mais juste d'avoir un petit groupe qui est structuré ou pas structuré, etc. Mais moi, j'ai remarqué que c'était quand même quelque chose qui était assez fort et qui permettait de se sortir de... Il y a juste moi, le producteur ou la productrice et mon texte, quoi. Mais il y a aussi plein de gens qui vivent la même chose que vous, de manière... Enfin, pas la même chose, mais en tout cas qui sont dans la même situation. Pardon, je crois qu'il y a un peu de l'arsène. C'est la meilleure une situation assez similaire et qui peuvent vous accompagner. C'était la première chose que je voulais ajouter. La deuxième chose, c'est que pour moi, je repars sur les contrats et si on n'a pas d'agent, pour moi, il y a des contrats, il faut effectivement les faire soit avec un agent, soit avec un avocat. Ce sont les contrats de cession de droit pour les longs métrages et les contrats de cession de droit pour une série télé. Voilà. Le reste, j'ai un peu envie de dire, c'est pas grave, mais les contrats d'option, on peut toujours attendre que l'option tombe, on sait de rien, on s'est mis d'accord sur rien, on peut toujours, enfin, on s'est mis d'accord sur un montant, etc. Mais c'est pas très, enfin, en tout cas, mais par contre, une bible de série, vraiment, vraiment, ne signez jamais, jamais une bible de série sans être accompagné professionnellement par quelqu'un. C'est trop important. C'est tout l'avenir de la série qui est là-dedans. Vous pouvez signer une option sur cette série, il n'y a pas de problème, en ayant des conseils à droite et à gauche. Mais s'il vous plaît, ne signez pas une bible de série comme ça, sans être accompagné. Ça, c'est vraiment important.
Oui, parce que c'est vrai que ces dernières années, il y a un intérêt croissant pour la série et il y a beaucoup de formations avec des jeunes auteurs et autrices qui sont un peu guettés à la sortie, etc. Et comme une des informations qui est souvent le plus demandée par les émergents et les émergentes, c'est « oui, mais c'est combien une option ? C'est combien une session de droit ? C'est combien pour tel ou tel format ?» Information compliquée à obtenir, parce que d'un scénariste à l'autre, on ne va pas forcément avoir les mêmes réponses en fonction de qui produit, du niveau de carrière de la personne. Mais effectivement, là où il y a un abus, c'est de profiter de l'empressement du scénariste à vouloir signer et se professionnaliser et espérer que son projet se fasse pour, comme tu dis, aller trop vite et signer un contrat de mort, puisqu'une fois que c'est signé, c'est la mort, quoi, c'est fichu.
On a ça dans tous les secteurs de la création. C'est-à-dire que quand on est émergent, nécessairement, on peut aussi, si on n'est pas dans une stature professionnelle, venir participer sans le vouloir à une dégradation des conditions de travail parce qu'on va négocier un mauvais contrat et que finalement, on va accepter des conditions que la profession n'aurait absolument pas acceptées. Alors, ça va peut-être faire très bateau, ce que je vais dire, mais je crois que ça implique nécessairement, et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, Sophie, c'est peut-être qu'on n'aime pas faire sa compta, peut-être que le fait de lire un contrat de 25 pages, c'est pas le truc le plus séduisant dans l'opération création, et bien pour autant, il faut le faire, c'est-à-dire qu'il faut lire son contrat, il faut essayer de se déterminer sa propre feuille de route. Comment est-ce qu'on se détermine une feuille de route ? Eh bien, on se pose deux minutes, enfin, même un peu plus en réalité, mais on prend du temps déjà de savoir quelles sont nos exigences minimum. C'est quand même important de se poser la question de savoir combien de temps on va vouloir investir de l'énergie sur ce projet, à partir de combien au minimum on est OK pour le faire. Donc il y a vraiment une réflexion à mener sur sa propre feuille de route et il y a aussi une réflexion à mener sur la feuille de route de son co-contractant. C'est-à-dire que ça implique nécessairement d'avoir une bonne connaissance de l'écosystème dans lequel on va évoluer, pour simplement se dire, mais en fait, là, je suis en train de négocier quelque chose, j'ai l'impression que je demande l'impossible, alors qu'en fait, non, en réalité, c'est complètement normal d'exiger au minimum ça. Déjà, si on part de ce principe de base, qu'on n'est pas face à un contrat d'adhésion, mais on est face à un contrat que l'on peut négocier, c'est déjà une victoire. C'est déjà une victoire. Alors après, oui, on peut se syndiquer. En fait, moi, j'ai envie de vous dire, il faut se syndiquer, point barre, dans la mesure où ce sont des métiers qui sont hyper précaires dans un écosystème qui est structuré autour justement de cette précarité endémique, qu'on compte sur votre faiblesse pour pouvoir justement vous imposer des conditions de contrat de merde. Et donc, nécessairement, si vous n'êtes pas dans un collectif, ça va être compliqué de vous en sortir. Ça, c'est le point de départ. Et franchement, je pense qu'on peut arriver à ça. Je veux dire, c'est très négatif, mais c'est une réalité. Après, si on n'a pas envie de se syndiquer, il y a peut-être des groupes qui existent, effectivement. Moi, je me souviens, alors ça fait très boumeuse de parler de Facebook, mais je me souviens d'un groupe qui s'appelait MDA AGSA, j'y comprends que dalle. Et donc, c'est vraiment... Mais ça reste actuellement, encore une fois, la page de référence pour tous les artistes auteuristes qui ont besoin d'avoir un renseignement sur la sécurité sociale. Et donc, c'est juste une interprofession désorganisée et finalement c'est de là qu'est partie un peu l'intersyndicale. Donc pour dire qu'il y a des collectifs un peu, il faut juste les identifier. Et pour donner peut-être une clé de compréhension parmi toutes ces organisations de scénaristes qu'il existe, regardez simplement celles, alors il n'y en a pas beaucoup, elles ne sont pas au pluriel, hein, mais qui revendiquent simplement la protection du travail de création en tant que tel, qui seraient payés de façon à justement le décorréler de l'exploitation des œuvres. C'est déjà un sacré bond en avant. Et puis regardez peut-être les organisations qui défendent la PPL quantité de revenus. C'est a priori des bons indices d'organisations qui fonctionnent bien. Voilà.
Donc je récapitule. Si on vous propose, dans le cadre des très gros contrats qui engagent des énormes enjeux artistiques et commerciaux, donc long-métrage cinéma, bible de série, si on vous promet monts et merveilles et qu'on vous empresse de signer un contrat, on ne se presse pas, on glane les infos juridiques, on essaie de trouver un agent, on demande à son syndicat, à son asso, et on prend son temps. En fait, le producteur ou productrice vous fera toujours miroiter que oui, mais il y a un calendrier, il faut qu'on aille vite, machin. Prenez le temps de la négoce, exactement ce que vous avez expliqué. Par ailleurs, j'ajoute un petit truc, ne pas oublier que les aides, les bourses, les aides du CNC à l'écriture destinées aux auteurs, aux scénaristes, ne sont pas des compensations salariales, ce ne sont pas des trucs qui remplacent ce qu'on vous doit quand vous avez un contrat.
On me censure. Je voulais juste rajouter quelque chose, parce qu'on parle de beaucoup de choses négatives, mais je pense qu'on a une responsabilité collective en tant qu'auteur aujourd'hui. Aussi, de sortir d'un storytelling qu'on s'impose à nous-mêmes aussi de posture sacrificielle. Il faut qu'on sorte de ce modèle-là. On raconte des histoires, mais il faut qu'on arrête de s'en raconter à nous-mêmes aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on revendique que c'est un travail, qu'un travail, ça doit être rémunéré, que derrière, il y a une personne, il n'y a pas une entité fantasmatique qui n'existe pas, derrière un clavier, le texte s'écrit tout seul, c'est magique. Et ça, il faut le revendiquer, c'est-à-dire qu'il faut en parler autour de nous. On parlait des brochures, de la famille, de tout ça, mais c'est aussi, ça passe aussi par la vision qu'a le grand public de notre métier, puisque, comme vous pouvez le voir, hein, il est assez invisibilisé. C'est très récent de voir des noms de scénaristes sur les affiches, c'est même très rare encore aujourd'hui. Il y a eu il y a quelques années, voilà, ils sont apparus sur Allociné un peu par miracle, pas que miracle en fait.
Il y a des assos qui ont un peu travaillé pour ça.
Mais c'est encore insuffisant, c'est-à-dire que quand on dit qu'on est scénariste, personne ne sait exactement en quoi ça consiste, etc. Et je voulais donc dire tout ça pour déjà dire qu'on a une implication à jouer là-dedans et qu'il faut qu'on en parle entre nous, mais aussi autour de nous, mais aussi sur la question du corps que vous avez abordé, qui est très importante, c'est Sophie, toi qui en parlais, que cette notion-là, il ne faut pas oublier que oui, nous sommes un corps, et comme tu le disais aussi Stéphanie, il n'y a pas aujourd'hui d'accident du travail pour les scénaristes, il n'y a pas d'arrêt maladie, mais il ne faut pas oublier que nous sommes des personnes, et qu'est-ce qu'on peut éventuellement faire à notre échelle pour remédier à ça aujourd'hui ?
Il n'y a pas de corps B.
La protection du corps, tu veux dire ? En tant que tel, c'est vrai que ça relève quand même, c'est complexe en fait quand on y pense, vous n'êtes pas protégé en tant que corps professionnel, voilà. Parce qu'on a estimé à un moment donné que dans toutes les protections sociales qu'il y avait d'habitude données aux salariés, vous n'aviez pas besoin d'être protégé contre les maladies professionnelles ou contre les accidents du travail. Bon. Alors, il y a des assurances privées qui existent, mais je veux dire, c'est même pas une solution réjouissante, puisque ça implique nécessairement d'aller créer un droit de façon subjective, alors que normalement, il devrait être reconnu collectivement, ce droit, à la protection la plus élémentaire de son corps, en fait. Comment est-ce qu'on peut faire ? Peut-être on négocie individuellement. Je ne sais pas si c'est possible d'avoir des techniques en plus dans le... Mais généralement, c'est l'assurance privée. Voilà. Donc, c'est même pas réjouissant de le dire, mais la seule solution qui existe, c'est ça. C'est de prendre une assurance privée.
Et puis du coup, l'autre truc, c'est, ça en revient à de la lutte collective pour faire changer ça, puisque c'est du droit en fait. C'est pas de l'individuel, c'est pas nous. Enfin, sinon, on en vient à des trucs très américains où on prend une assurance en plus, ça n'a pas de sens. Non, c'est là où c'est important de vous rapprocher de collectifs qui se battent pour que ce soit un nouveau droit social qui soit attaché à notre catégorie d'artiste-auteur, quoi.
Donc vous voulez dire que si par exemple TF1 me propose d'écrire un épisode, une commande sur une série existante et qui me convoque une journée pour faire un brainstorming avec une directrice de collection et d'autres scénaristes, si je me casse la binette dans l'escalier chez TF1, je n'ai que mon contrat de cession de droit sur l'épisode que je vais écrire, donc je ne suis pas protégé à ce moment-là.
Tu n'es pas protégé quand tu te casses la binette chez TF1.
Donc, pour me protéger, je m'entoure de trucs de protection et je fais attention où je marche, quoi.
J'ai un peu envie de dire que c'est presque pire. Parce que si tu te casses la binette chez TF1 et que tu te casses les deux poignets et que tu ne peux plus écrire, en fait, tu n'as même plus ton contrat. Tu es remplacé.
ChatGPT. Non, pas ChatGPT.
Voilà. Donc, parce que dans les contrats justement de commande d'audiovisuel, si tu es dans l'incapacité de faire ton travail dans les délais qui ont été décidés, tu es remplacé. Donc là, non seulement tu n'as pas de protection d'accident du travail, mais en plus, tu as perdu ton contrat.
Ouais. Et alors, vous parlez du corps. Pardon, vas-y, Sophie.
Je ne sais pas, peut-être que c'est là-dessus que tu vas vouloir enchaîner, mais du coup, ça. Ça, ce que tu viens de dire, ça... Ah, le mot m'échappe. Mais les gens qui craignent qu'en nous donnant un nouveau droit social, ont souvent peur qu'on se retrouve subordonné.
Oui.
Alors que ce que tu viens de décrire, c'est genre le pire truc de subordination qu'on puisse avoir. Et bref, du coup, c'était...
Je voulais enchaîner, mais on va y revenir justement sur le sentiment de subordination supposé. Non, je voulais faire un petit aparté, puisqu'on est sur le corps, sur la question des VHMSS. À savoir aussi que cette précarité des auteurs et des autrices favorise aussi le fait d'avoir ces leviers de négociation complètement flous et d'être complètement à la merci, notamment en début de carrière, en jeunesse de carrière, en émergence, d'être à la merci aussi d'abus humains au-delà du contrat. Et évidemment, je pense que malheureusement, si vous demandez à plein de jeunes, alors je vais dire femmes parce que c'est majoritairement des femmes, plein de jeunes femmes scénaristes, etc., qui se sont retrouvées à discuter avec des prods, etc., vous pouvez rapidement entendre des témoignages assez inquiétants. Et malheureusement, c'est pareil, il y a très peu de réponses. Il y a Audience qui a mis un numéro d'information et d'aide depuis seulement, je crois, 4 ans, quelque chose comme ça. À la destination des intermittents de spectacle et des artistes-auteurs, donc vous pouvez le trouver facilement sur Internet, c'est déjà une bonne chose. Et par contre, c'est vrai que le chantier est encore ouvert, puisque même l'intersyndicale commence un chantier de réflexion sur justement la spécificité des artistes-auteurs par rapport à cette question-là. Et on peut peut-être en parler d'un point de vue du droit très rapidement. En fait, quand on est en entreprise employée, il y a des dispositions. Et quand on est artiste-auteur, qu'est-ce qu'on a ?
En fait, tout ce qui est relatif aux luttes contre les VSS, il y a évidemment un pan pénal qui fait qu'on est toutes et tous protégés par le code pénal, quel que soit son statut professionnel. Ça, c'est un point qu'il faut quand même rappeler. C'est qu'on n'est pas non plus non protégé. Il reste quand même les mécaniques du droit pénal, mais qui ne sont pas forcément faciles à actionner parce que ça implique de porter plainte, parce qu'on se lance dans un process qui est complètement différent. C'est celui de la responsabilité pénale qui implique de procéder à la punition de l'auteur des faits et en tant que victime d'obtenir un dédommagement de ses préjudices subis. Bon. Quand on est un salarié de droit commun, on est rattaché au droit du travail. Et en plus de cette responsabilité pénale qui peut tout à fait être actionnée, il y a une responsabilité, on va dire, de l'entreprise qui peut être soulevée, engagée. Parce que l'employeur a une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés qui fait que si ceux-là subissent ou font subir des agissements qui seraient de nature, par exemple, à caractériser du harcèlement sexuel ou du harcèlement moral, pour prendre les dispositifs qui existent dans le Code du travail, eh bien, automatiquement, il engage sa responsabilité de plein droit. Okay ? Alors, enfin, automatiquement, c'est un petit peu changeant, mais concrètement, pour faire simple, le salarié est quand même très protégé. Quand on est un scénariste, on n'est pas salarié d'entreprise. Donc, on n'est pas à proprement parler un bénéficiaire de toutes ces dispositions juridiques. Il n'empêche que la jurisprudence a fait quand même une avancée considérable en considérant notamment qu'on pouvait caractériser des faits de harcèlement sexuel ou moral en entreprise quand ils concernent une personne extérieure à l'entreprise mais qui a un lien direct avec l'entreprise. Autrement dit, je vais prendre les auteurs de livres ou les autoristes de livres que je connais un peu mieux, mais si par exemple ceux-là sont dans un rapport compliqué avec un éditeur salarié, là, à ce moment-là, on va pouvoir éventuellement actionner les leviers du droit du travail. Mais tout ça est tellement flou qu'effectivement, il faut, je pense, se battre pour avoir directement accès à cette protection sociale sans attendre une jurisprudence un peu aléatoire, en fait, pour nous protéger au mieux, quoi.
Et pour aller plus loin, c'est comme dans l'exemple de TF1. Non seulement on est, comme les auteurs ne sont pas salariés, ils ont, en tout cas, il faut aller chercher très durement cette protection de l'employeur sur l'auteur. Mais par contre, dans tous les contrats de cession de droits d'auteur maintenant, il y a des dispositions qui font qu'on peut mettre fin à votre contrat si justement vous êtes, enfin en tout cas, c'est-à-dire qu'on on va sanctionner, et c'est très bien, les auteurs si eux ont des comportements qui ne respectent pas le code de conduite envers les autres salariés de l'entreprise. Mais par contre, il n'y a rien qui est prévu pour les protéger, eux.
Et ça, c'est déjà généralisé ou c'est une tendance seulement qui commence
Non, c'est dans tous les contrats maintenant.
D'accord.
Pour enchaîner sur des outils pratiques... Oui, et puis que des bonnes nouvelles. Vous allez déceler mon ironie très rapidement. Parce que là, je me mets à la place d'auteurs qui entendent parler d'accords interprofessionnels. Je mets les pieds dans le plat un peu, j'ouvre la boîte de Pandore. En audiovisuel et en cinéma, ils se disent, bah, maintenant qu'il y a un cadre légal qui est posé pour la négociation de mes contrats, forcément, tout va bien se passer, ma situation va s'améliorer, puisque j'ai une rémunération minimum qui est négociée. Mais concrètement, qu'est-ce que ça implique ? Est-ce que vous pouvez nous dire déjà en quoi consistent ces accords et comment concrètement ils ont impacté le travail des auteurs ?
Je ne vais pas forcément aller sur le fond des... Oula, j'ai parlé très fort. Je ne vais pas aller sur le fond des accords. Je pense que tu en parleras beaucoup mieux parce que tu les connais bien. Mais plus sur la forme, c'est quelque chose quand même d'assez inédit. Et je crois que c'est important de le dire parce qu'on est très pessimiste et qu'en fait, il faut aussi avoir à un moment donné des petites touches comme ça, successives. Mais c'est vrai, parce que moi, j'examine les mouvements chez les artistes-auteurs depuis hyper longtemps maintenant, dans le cadre de mes travaux de recherche à l'université. Et en fait, cette négociation collective... Elle est, ça fait moins de 10 ans qu'on commence à négocier collectivement de meilleurs contrats pour les scénaristes et d'ailleurs pour les auteurs et autrices au sens large du terme. Donc c'est peut-être imparfait, mais ça a le mérite déjà d'exister. Ça, c'est quand même important qu'on ait ce point de départ-là, puisqu'il y a une époque en fait où le simple fait de négocier collectivement des contrats qui étaient normalement exécutés par des auteurs individuellement, ça n'était absolument pas pensé. Ça relevait vraiment, je pense, de l'impensé pour à la fois les législateurs qui façonnent le droit d'auteur, mais aussi pour les producteurs. Enfin, je pense que... Je parle des éditeurs, moi, que je connais mieux, mais honnêtement, depuis qu'on est face à eux dans les négociations collectives, ils hallucinent, parce que pour eux, le sacro-saint, ils revendiquent la liberté contractuelle, la liberté individuelle. Comme nous sommes toutes et tous des génies au service de l'élévation du fonds commun des connaissances et que nous sommes avec une autonomie de la volonté qui est acquise, ben vous n'avez qu'à mieux négocier vos contrats. Si vous voulez avoir plus de rémunération, ça n'a pas de sens de négocier collectivement. Donc le fait qu'elles s'invitent à la table aujourd'hui, c'est intéressant.
Avec la réserve que j'ai que, en fait, ça dépend qui est autour de la table et qui a des intérêts à cette table.
Je voulais juste être optimiste 3 minutes. Mais oui. Après, effectivement, on va aller sur le terrain.
Je voulais rééquilibrer. Et... voilà. L'espoir arrive.
Oui, effectivement, oui. oui, ceux qui négocient actuellement, bon, je vais mettre les pieds dans le plat et puis après, elles compléteront. Mais effectivement, quand on regarde, bah, c'est logique, on n'a pas un droit des relations collectives encadrées. C'est-à-dire que vous imaginez, ce sont globalement des syndiqués, souvent bénévoles, qui ne sont pas dotés de compétences juridiques, qui vont négocier face à des armées de juristes hyper formés. Bon, qui va gagner, à votre avis ? Attention, spoil, bah, c'est pas les auteurs, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se fait... Moi, j'ai participé à 4 ans de négociations collectives dans le secteur du livre. Pendant 4 ans, on s'est tapé... Et pourtant, je suis juriste. Hein, et, enfin, je veux dire, je connais ce que je négocie, quoi. Eh bien, même ça, si vous voulez, ça n'a pas manqué. Enfin, je veux dire, on n'a pas fait avancer grandement la cause. Pourquoi ? Parce que on a été trimballés dans des réunions au ministère de la Culture avec, il faut bien le dire, un ministère de la Culture...
Ça veut tout dire.
Voilà. Qui, de toute évidence, ça l'arrange aussi. Parce que la négociation collective, il le voit comme ça. Il se dit, s'ils se mettent d'accord, je pourrais dire que c'est grâce à moi, c'est sous l'égide du ministère de la Culture que ces gens ont réussi à se mettre d'accord. Et puis s'ils n'y parviennent pas, ben, c'est pas de ma faute, quoi. Ils n'avaient qu'à se mettre d'accord, ces auteurs et ces éditeurs, quand même, ça n'a pas de sens. Et donc nous, on fait partie du coup de la deuxième vague. C'est-à-dire qu'on a eu des accords très merdiques. Voilà. C'est enregistré, c'est ça ? Donc, je rembobine un peu. Ils sont discutables, mais en fait, non, ce n'est pas des avancées extraordinaires, soyons clairs.
Non, je suis d'accord avec toi. Par contre, c'est vrai que le point positif, c'est que ça ouvre la pratique de faire des accords. Donc, on espère qu'autour de la table, la prochaine fois, il y aura un casting plus équilibré et mieux intentionné.
Oui, je pense que tu as raison, Stéphanie, de rappeler qu'au moins, maintenant, il y a un début de... Bon, bah c'est une anecdote qui est un peu liée, mais pas totalement. Mais moi, je me souviens, et je pense que ça existe encore, mais en animation, sur une série, on est toujours beaucoup d'auteurs. Et il y a des gens qui prennent soin de ne jamais relier les auteurs entre eux pour qu'ils ne puissent pas discuter. Il y a eu une époque où vraiment c'était ça, on recevait que des mails individuels. Et y compris quand on se retrouvait à savoir qu'il y avait un conflit, c'est une époque un peu lointaine avec un cas qui n'existe plus, mais des négos avec des auteurs d'ouvrages d'origine. Et en gros... Même la communication inter-scénariste d'une même série était empêchée. Donc, bien sûr que voir du collectif arriver, ça... Donc, oui, il y a un début. Après, on en est encore à se battre pour toutes les questions de représentativité, pour que les gens autour de la table de négociation soient des gens estimés représentatifs par la population des artistes-auteurs concernés et non pas par quelqu'un dans un bureau du ministère qui a des critères dont on ne comprend pas... qui ont l'air d'être concrets, mais on ne sait pas trop. Voilà, ouais, le fait du principe. J'ai coupé la parole, je crois.
Non, non, pas du tout. Les accords. oui, saluons la négociation collective, je suis d'accord. Je trouve que c'est un bon signe. En tout cas, ça permet de sortir de cette relation individuelle dont on n'est pas forcément toujours gagnant, parce que, évidemment... et c'est ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais des VHSS. Je pense que c'est on n'est pas dans une posture d'égalité. Enfin, concrètement, qui a l'argent, c'est pas les auteurs, quoi. Donc oui, il y a les idées, mais globalement, c'est se leurrer de se dire qu'on est dans une négociation. Oui, on peut être tous les deux éclairés, mais c'est pas une situation dans laquelle on est dans une situation égale, en fait. Donc ça, c'est important. Et ça, c'est vrai que les accords, ils viennent un peu nous soutenir. Et c'est un petit marchepied quand même pour se dire « Non, mais il y a des trucs, tu ne peux pas me le proposer. » Voilà. Et moi, je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les accords. Comme c'est ce qui est les accords, notamment ceux qui ont été négociés dans l'audiovisuel et le cinéma, il faut vraiment voir ça comme des minimaux de chez minimaux, de chez minimaux, de chez minimaux. Voilà. Donc on peut pas aller en dessous de ça. Mais c'est tellement pas ni le médian, ni ce qui est juste, etc. etc. Faut juste le voir, c'est illégal d'être en dessous.
Mais mais il n'y a même pas de mesure. En vrai, si quelqu'un propose un truc illégal, il n'y a aucun truc qui empêche de... Puisqu'il n'y a pas de... Je ne trouve pas le bon... Pardon, j'ai perdu le mot.
De sanctions.
Oui, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de mesure. Aujourd'hui... Moi, ceux en animation qui ont été signés, Il y a des producteurs qui ne les appliquent pas. Et en fait, ils n'embauchent plus d'auteurs avec agents. Enfin, c'est assez marginal, mais on sait que ça existe. Donc, des accords, en gros, ils en ont fait de l'origami dans un coin de leur bureau. C'est super joli, certainement, mais...
Non, mais je ne veux surtout pas être celle qui défend les accords. Hein, mais j'étais dans l'idée de l'autodéfense. Oui. Je trouve que c'est bien de se dire, en fait, ces accords, ce n'est pas le médian. C'est vraiment le minimum de ce qu'on voit de vous proposer. Donc, vous êtes en droit... Vraiment, sincèrement, vous êtes en droit de demander des contrats qui respectent ces accords.
Mais oui, de toute façon, moi j'ai appris dans une table ronde récemment qu'il fallait de toute façon bien négocier et si possible avec une agente ou un avocat derrière. Donc,
Après, juste sur, toujours sur les accords, donc nous, les agents, les agentes, on a un syndicat aussi également. Des contrats de cession de droit en audiovisuel, en animation, en cinéma, on en fait tous les jours et nous n'avons pas été conviés dans ces négociations sur les accords. Donc nous, on nous demande aujourd'hui, et c'est pour ça que ça me fait rire qu'on me demande de parler des accords, on nous demande aujourd'hui d'appliquer des accords que nous n'avons pas négociés et sur lesquels, en fait, nous, on négociait pour nos clients des choses... vraiment bien au-delà de ce qui était noté des accords, pas forcément sur les montants, enfin les montants on peut en discuter, les montants c'est en fait les montants comme c'est des minimaux, bah oui évidemment il y avait des gens qui gagnaient plus, il y avait pas beaucoup de gens qui gagnaient moins, mais sur les conditions en fait on avait avant les accords on n'avait pas de problème sur les conditions. Et aujourd'hui, parce que c'est dans les accords, ça a instauré des pratiques, notamment sur le nombre de textes, de versions du texte que vous pouvez rendre, qui sont insupportables, quoi. Et donc, ça a déplacé notre négociation sur des questions. Ce n'était pas des problèmes. C'est-à-dire qu'on arrivait à se mettre d'accord. Oui, bah, combien tu veux de versions ? 5, ok, ça, 5, ça me semble bien. Voilà. Maintenant, ce que nous, on négocie à 5, c'est marqué 14 dans les accords. Donc tu commences la négo, il faut que tu battes contre 14 versions d'un texte. 14 versions. Et les gens commencent à dire, ah oui, mais c'est dans l'accord. Non, l'accord, c'est un max. Et donc on perd une énergie de dingue, tout ça parce qu'on n'était pas autour de la table. Et on a essayé de rentrer par la porte et on s'est fait virer. On a essayé d'entrer par la fenêtre, on s'est refait virer. Enfin, c'est pas faute d'avoir essayé d'être à la table de ces accords et on n'a pas voulu de nous.
Et la beauté de la chose, surtout, c'est que quand ils ont été questionnés sur pourquoi vous n'étiez pas là, ils ont quand même répondu que ça ne vous concernait pas directement. C'est ça qui est formidable. C'est quand même que vous négociez au quotidien ces choses-là, mais on les négocie sans vous parce que, bon, en gros, vous n'avez pas votre mot à dire, vous ne vous en servez pas. Sauf que tous les jours, après, qui dénonce les conditions de merde dans lesquelles ils ne veulent pas travailler, qu'ils ont négocié ? C'est vous, quoi. Donc c'est un peu ironique, tout ça.
Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de contentieux dans votre secteur d'activité. Enfin, en tout cas... C'est-à-dire que ce qu'il faut se rappeler quand même, c'est qu'on signe un contrat pour une durée extrêmement longue, parce que globalement, c'est des cessions pour toute la durée de la propriété intellectuelle. Donc, alors pas forcément, oui, mais disons qu'en tout cas, ça dure un paquet de temps. 35 ans, c'est pas rien. Versus, si ça se passe pas bien, qu'est-ce qui se passe ? Et on peut dénoncer le contrat, d'accord, mais comment est-ce qu'on dénonce ce contrat ? Alors, soit on a un agent génial qui nous dénonce ce contrat, soit on reste empêtré dans un contrat et on va devant un juge pour pouvoir éventuellement obtenir une résiliation du contrat. Et tout ça n'est pas mince à faire. Ça coûte encore de l'argent et c'est long, quoi, et c'est aléatoire. Donc,
On n'arrive pas... On va très peu au contentieux, ça, c'est clair. Mais quand même, on a un poids qui est lourd, notamment sur la commande, c'est-à-dire les textes. C'est-à-dire on peut ne pas rendre les textes ou on peut dénoncer. Si on dénonce un contrat, ça veut dire que le producteur, la productrice perd les droits sur le texte. Et ça, c'est des clauses qui sont vraiment importantes, les clauses qui sont à la fin. C'est la page 38, donc souvent on regarde pas, mais c'est quand même, c'est là où il faut, c'est justement à quelles conditions on peut récupérer les droits sur ce projet si jamais il y a des manquements du producteur. Et ça, c'est une clause qui est la clause résolutoire. Ça n'a pas besoin d'aller devant un juge. C'est juste, on a juste besoin d'envoyer un recommandé au producteur en disant vous n'avez pas fait ça, donc à partir de dans 15 jours vous n'avez plus les droits du projet. Ça, c'est très fort. Donc moi, c'est ce que j'appelle l'option nucléaire. Donc on la sort pas tous les jours. Voilà, on va éviter la Troisième Guerre mondiale. Mais c'est quand même assez fort. Et c'est une menace. C'est un peu comme justement la dissuasion nucléaire, c'est quand même une menace. C'est quand même une menace, le fait de perdre les droits sur l'œuvre, ça reste une menace très forte dont on se sert. Et c'est pour ça qu'on a très peu de contentieux. Parce qu'en fait, dès qu'on arrive là, les gens y payent. Souvent, c'est des questions d'argent. C'est suffisamment, les gens payent. Et l'autre chose, je peux en parler puisque j'y suis demain, c'est qu'on a de la médiation avec la MAPA. Donc, on a un système de médiation qui est quand même assez efficace. Alors là, c'est un peu comme les tribunaux. Ils sont un peu submergés de demandes. Mais dans vos contrats, en audiovisuel et dans le cinéma, vous allez avoir une clause qui vous dit que, justement, si vous avez des problèmes d'interprétation sur ce contrat, on va tous passer par la médiation en premier. Et c'est vraiment un exercice très intéressant qui permet d'essayer de trouver une solution justement pour éviter le contentieux. Bon, je vous en dirai plus demain après-midi, mais voilà.
Avant de prendre les questions de la salle, on a quand même deux sujets importants à aborder qui sont d'actualité. C'est la question de la GSA, parce qu'on parlait d'espoir, il y a quand même une victoire qui a été remportée il y a peu, et donc j'aimerais bien qu'on parle. Et puis la proposition de loi de continuité de revenus qui est d'actualité. Alors, pour l'instant, j'allais dire tristement, mais c'est quand même une très grande avancée. Et ça va être un gros sujet de l'année 2026. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de ces deux sujets ?
L'AGESA, en fait, c'est l'organisme de gestion de la sécurité sociale des artistes auteurs qui, en fait, a été remplacé récemment par la 2S2A et qui est à l'origine d'un scandale, on peut le dire, en tout cas d'un dysfonctionnement grave, suffisamment grave pour avoir été pointé par la Cour des comptes dans un rapport rendu cet été, qui a oublié, d'appeler à cotiser pour la vieillesse beaucoup d'artistes, auteurs et autrices, et qui, ceux-là, se sont réveillés, en fait, du jour au lendemain, au moment de prendre leur retraite, avec la triste découverte qu'ils n'avaient pas cotisé pour leur retraite et qu'ils n'étaient pas, donc, bénéficiaires de pension retraite. Donc, vous imaginez la blague. On a pensé qu'on cotisait comme un professionnel. On a déjà du mal à être considéré comme un professionnel. Mais en plus, on n'a pas de retraite. Voilà. Il se trouve que le ministère de la Culture avait proposé dans le PLFSS, et ça devient technique, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale, d'installer un peu définitivement cette 2S2A en vue de gérer le régime des artistes, auteurs et autrices, et d'acter que les représentants des artistes, auteurs et autrices qui y siègent au conseil d'administration seraient désigné par le ministère de la Culture, vraiment complètement du fait du prince, sans aucune espèce de considération pour tout ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, quoi, la représentativité, etc. etc. Et on a donc fait un lobbying intense, au point que je pense qu'en décembre, l'intersyndicale a eu un ressenti de fatigue de juin, donc on est complètement cramé, en fait. Mais on a obtenu d'abord de retirer l'agrément. Tout ça, évidemment, va être déterminé dans les semaines à venir. Je vais refaire une vanne sur le ministère de la Culture, mais bon, quand Madame Dati aura deux minutes, je pense qu'elle s'y attellera. Et donc, ou pas, on verra. Mais en tout cas, on a obtenu la réintroduction des élections professionnelles pour justement avoir une gouvernance qui soit réellement représentative des artistes, auteurs et autrices. Et ça, c'est pas mince affaire. Et puis surtout, on a obtenu la tutelle du ministère du Travail. Alors c'est tout bête, mais c'est complètement inédit aussi. C'est-à-dire qu'être que au ministère de la Culture, on voit bien, ça a quand même des limites. Être d'un seul coup sous l'égide d'un ministère du Travail, ça veut dire aussi actionner le département du dialogue social et de toutes ces personnes finalement qui œuvrent au quotidien pour les autres travailleurs et qui vont peut-être avoir un regard un peu différent sur cette 2S2A. Voilà. Alors ce ne sera plus la 2S2A, ce sera un organisme de gestion différent, mais donc ça c'est plutôt la belle victoire.
Ah ben oui, je parlais de la continuité de revenus, mais peut-être on peut se diriger vers Sophie pour ça.
Oui, enfin, on va parler à deux.
Vers
enfin,
tout le monde.
Oui. Bon, du coup, la proposition de loi sur la continuité de revenus, vous avez peut-être un petit peu suivi, mais c'est un projet qui est porté par l'intersyndicale depuis 4 ans, je crois, et ces deux dernières années ont été un peu plus fortes. Elle a été notamment présentée au Sénat juste avant les vacances de Noël. L'idée de ce projet de loi, c'est d'instaurer, sur le même principe qui nous rattache à la sécurité sociale, c'est de nous rattacher à
un revenu de remplacement qui n'est pas tout à fait un chômage, parce que là tout de suite on arrive sur attention, on va devenir salarié. Mais voilà, c'est d'utiliser le même procédé qui convertit nos heures pour nous rattacher à la sécurité sociale pour qu'on ait une continuité de revenus. Pardon, je m'embourbe complètement. Donc ce projet a été présenté au Sénat le 18 décembre. On y était, on y a cru un petit moment en voyant la moitié droite de l'hémicycle complètement vide. Et en fait, le seul sénateur de droite présent a sorti une espèce de carte magique lui permettant de voter pour tous ses petits copains absents. Et du coup, ils ont rejeté cette proposition de loi qui, donc, pour le moment, n'est pas passée. Mais par contre, là où ça doit vraiment être quand même quelque chose de positif, c'est que cette idée que les artistes-auteurs pourraient avoir accès à une continuité de revenus n'a jamais été aussi loin chez nos parlementaires, mais plus globalement dans la société. Je pense qu'il y a 4 ans, mais même nous, la première réunion qu'on a faite, je me souviens très bien, on est sortis, c'était présenté par le SNAP CGT, donc un syndicat CGT d'artistes plasticiens qui portait ce projet avec d'autres syndicats que je ne vais pas arriver à vous citer là. On est ressorti en se disant c'est une super idée, mais on ne le verra jamais de notre vivant. Enfin, on est un peu... Et bon, 2 ans plus tard, on est sorti du Sénat un peu triste parce qu'ils venaient de voter contre. Mais quand même, on a entendu des parlementaires évoquer notre précarité, évoquer la faiblesse structurelle de notre domaine. On a entendu aussi énormément de bêtises, donc contre lesquelles il va falloir se remettre à lutter, notamment toutes les attentions, ils vont être moins libres parce qu'ils vont devenir salariés, qui ont été répétées, y compris par la ministre. Il y avait vraiment des passages extrêmement douloureux. Mais bon, tout ça, c'était le 18 décembre, et on est tous partis en vacances, on s'est reposés. Et là, on est en pleine forme, hein, je crois. Et du coup, en gros, l'intersyndicale va reprendre ce boulot qui est loin d'être fini parce que il y a des... Eh oui, tu vas certainement revenir là-dessus, je me rends compte que j'ai oublié. Il y a eu toute une... Par des députés, il y a eu... Elles ont fait un rapport. Pardon. Oui, il y a eu un rapport du côté des députés aussi. Donc il y a les deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale qui ont travaillé sur le sujet. Et les deux députés qui ont porté... le rapport sur la continuité de revenus continue, d'après ce qu'on sait, à travailler dessus. Et je vais te laisser la parole, parce que je pense que j'ai laissé plein de trous. Tu vas pouvoir...
Mais c'est vrai que c'est un texte que je vous invite à peut-être aller consulter directement sur le site Continuité de revenus. Tout est expliqué. L'analyse économique du texte est faite. Les propositions... Et d'ailleurs, il y a même un endroit où vous pouvez signer une pétition si jamais vous êtes partant. Tout ça s'inscrit dans un mouvement aussi européen. C'est important de le dire parce qu'on a une résolution du Parlement européen qui a été votée en 2023. Qui vise à mettre en place un vrai statut pour les artistes-auteurs et globalement pour l'ensemble des travailleurs de la création au sens large. Ça fait suite à la crise Covid sans précédent que nous avons traversée, qui a très clairement montré que justement ces métiers hyper précaires face à des crises sanitaires sans précédent, ils étaient encore plus précaires. Ça, c'est bizarre. Là, on se prend un autre cataclysme, on n'en a pas du tout parlé, mais qui est celui de l'intelligence artificielle et qui nécessairement va aussi avoir des répercussions. Et donc, on se dit qu'il est grand temps de réfléchir à la mise en place d'un statut professionnel. On a eu des initiatives en Belgique, on a eu des initiatives en Irlande. Et alors, assez étonnamment, quand on aide les créateurs, vous savez ce qui se passe ? Eh bien, ils sont mieux, en fait, dans leur activité professionnelle. Il semblerait que ça, même, il y a le ruissellement, vous voyez, il y a quelque chose de positif qui se passe. Bref, tout ça pour dire que, évidemment, ça nous paraît être totalement utopique. Moi, je me rappelle, il y a 4 ans, je me disais, ok, donc ça va être genre, je ne vais pas le voir de mon vivant. Mais il ne faut pas oublier que quand on a commencé à innover en parlant de régime général et de sécurité sociale, je pense que les gens étaient complètement passés pour des fous furieux à proposer qu'on cotise tous pour une solidarité nationale. Enfin, je veux dire, ça, voilà. Donc là, on s'inscrit dans le même mouvement et c'est important que vous soyez au rendez-vous parce qu'il va se passer des choses en 2026.
Deux petites choses à dire. L'importance de lever le tabou de l'argent. Ça, c'est hyper important, on l'a un peu évoqué, mais même la rémunération, il ne faut pas avoir honte d'être payé pour ce qu'on fait, en fait. Donc ne vous réduisez pas juste à écrire des textes, ça n'est pas sérieux, etc. C'est un vrai métier donc, qui doit avoir une rémunération correcte et proportionnelle, et donc il faut que vous le défendiez aussi de votre côté. Mais aussi, parce que là on parle beaucoup de syndicats et d'intersyndicales et de combats compliqués, techniques, juridiques, etc. De l'importance peut-être aussi de se syndiquer, parce qu'on en parle beaucoup, mais parlons-en concrètement. Peut-être que vous ne le savez pas, mais déjà il y a peu, enfin en l'occurrence deux syndicats d'auteurs, enfin de scénaristes en France. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'ils peuvent, eux, avoir des armes juridiques au nom de la profession entière. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, et vous pouvez peut-être un d'eux évoquer, parce que ça va aussi peut-être jouer dans la continuité de revenus et aussi dans la représentativité des auteurs à l'avenir. Oui, puis surtout l'importance de se syndiquer. Pourquoi en fait le faire ? Parce qu'on a parlé de ce qui est de toute la dimension de conseil et de pédagogie, mais aussi pourquoi c'est important de le faire aujourd'hui. Peut-être.
Parce qu'on ne tient pas seul.
Oui.
Je ne suis pas sûre de comprendre tout à fait ta question, mais oui, enfin, l'importance de se syndiquer, c'est de ramener la lutte au niveau collectif et de parler en tant que profession et de sortir du caractère individuel qui en réalité n'arrange que le camp d'en face, de nous garder séparés.
On se rend compte, quand on fait du droit, qu'on avait beaucoup de droits collectifs à une époque. Et faute de les protéger ou de les revendiquer, on a passé tout doucement, c'est un peu ces droits collectifs à la moulinette. On a eu une pulvérisation des droits collectifs en micro-droits subjectifs. Chacun a maintenant des droits qu'il faut défendre. Et qu'est-ce qu'on voit à côté de ça? On voit un phénomène de non-recours aux droits sociaux qui est hallucinant. C'est-à-dire que dans toutes les commissions d'enquête, vous entendez parler des abus de droit, où vous avez des gens qui fraudent et c'est absolument infect, il faut les brûler dans la forêt. Bon, oui, très bien, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne recourent pas à leurs droits sociaux, et cela, on en parle assez peu. Et cette pulvérisation des droits en droits subjectifs, elle est finalement... Elle se retourne contre les travailleurs et les travailleuses. Donc il y a vraiment cette idée de reconquérir le collectif pour tout simplement s'armer et se défendre, défendre ses droits les plus élémentaires.
Oui, effectivement, par rapport à ce que tu disais, Alban, une organisation d'auteurs créée en syndicat a la capacité de porter des affaires juridiques, mais au nom de la profession, du coup, pas au nom d'un individu. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir vous défendre, vous, sur un... conflit spécifique avec un producteur, mais par contre porter un conflit commun qui concerne l'ensemble de la profession, ça c'est possible et c'est une des raisons de se syndiquer. Mais ouais, voilà.
Oui, mais c'est bien ce que tu dis, c'est pas d'où l'importance aussi de faire remonter, tu en parlais Solène, les situations auxquelles vous êtes confrontés, que vous soyez syndiqué ou non, vous pouvez en faire part au syndicat aussi pour qu'il puisse s'emparer de ces questions. Et tu voulais rajouter quelque chose Rémi sur le court-métrage?
Oui, parce qu'on est quand même dans un festival connu pour la qualité de ses courts-métrages. Et justement, ça fait écho à ce que disait Solène sur le fait que quand vous allez vous retrouver avec un immense projet, qui est donc un long-métrage de cinéma ou un projet de série, etc., beaucoup d'aspirants, réalisateurs, réalisatrices, scénaristes, ou les deux, vont souvent commencer avec le court-métrage. Le court-métrage a effectivement un enjeu beaucoup moindre, c'est-à-dire que vous n'allez clairement pas gagner grand-chose avec un court-métrage, quand bien même il sera diffusé sur France Télé. Par contre, c'est aussi un moment où vous pouvez beaucoup plus facilement, moi je trouve, et d'expérience j'ai l'impression qu'autour de moi ça va, si vous travaillez avec des jeunes producteurs ou productrices indépendants qui sont bienveillants, la négociation, à partir du moment où vous avez les infos sur des choses à ne plus accepter dans des contrats ou que vous pouvez peut-être un peu relever, c'est un bon moment pour justement commencer à faire cela. Un truc tout bête, par exemple, c'est que pendant longtemps, l'habitude, je ne sais pas si ça change vraiment, mais en tout cas, moi je le demande, quand l'habitude c'était que vous êtes payé pour votre scénario en plusieurs échéances, et la dernière échéance, c'est le premier jour de tournage. Ce qui est absurde, parce qu'en fait, entre le moment où le producteur, productrice cherche des financements et le moment où le tournage se passe, tous les accidents de parcours n'ont rien à voir avec le travail d'écriture. Donc vous êtes pénalisé de ne pas être entièrement payé. Donc moi, maintenant, ce que je demande, c'est que la dernière échéance, ça soit simplement au moment où on touche une première aide au développement ou à la production suite à l'écriture du scénario, ce qui me paraît déjà un peu mieux. Peut-être que Solène, tu trouves que je suis trop gentille, je ne sais pas. Mais...
Non, mais moi, à chaque fois, je trouve que c'est ce que je disais tout à l'heure. Je trouve qu'à chaque fois, c'est des questions d'équilibre, où on en est dans la situation, etc. etc. Donc moi, je trouve que dans les conditions financières des courts-métrages, on peut être... on peut discuter parce qu'on a tous intérêt que ce court-métrage se fasse. De toute façon, on a toujours intérêt que les projets se fassent. Mais là, dans un court-métrage, il n'y a pas ces enjeux, justement, effectivement. Il n'y a pas de chaîne de télé derrière, il n'y a pas Netflix, il n'y a pas TF1. Donc, bon, globalement... Non, moi, juste sur le court-métrage, il y a un point que je trouve vraiment important, c'est vraiment de se limiter à céder les droits pour le court-métrage. Il n'y a pas de l'adaptation en long-métrage, il n'y a pas de l'adaptation en BD, il n'y a pas de l'adaptation théâtrale. Non, vous voulez faire ensemble un court-métrage. Et là, c'est important, justement, comme tu disais, c'est important de savoir lire ces contrats. Ça, c'est écrit noir sur blanc. C'est pas du langage juridique. C'est, voilà. Si vous voyez adaptation long-métrage, adaptation podcast... Le micro, parce que j'ai dit des âneries. Voilà, là, ça, c'est non. On fait un court-métrage. Ça, je trouve que c'est un bon... On fait un court-métrage. Voilà, on fait un court-métrage. Si jamais le court-métrage y cartonne, bah, à ce moment-là... On renégociera pour savoir combien ça coûte pour adapter le court-métrage en long-métrage, par exemple, ou en BD ou en série.
Merci. Alors, on va prendre les questions du public. Je fais un petit récap rapide. Donc, première chose, informez-vous. Informez-vous par tous les moyens. Vous discutez avec des agents. Vous prenez un agent si l'occasion se présente. Vous essayez d'attraper Stéphanie quand vous la croisez au festival. Vous syndiquez, vous profitez des retours d'expérience de tous les scénaristes qui ont le temps et la gentillesse de vous répondre. Et vous glanez toutes ces infos. Et si un jour on vous fait une proposition et que vous ne savez pas comment négocier, pareil, vous allez chercher solidarité, collectivité. Ensuite, n'ayez pas peur de lire vos contrats, n'ayez pas peur de mettre le nez dans les questions juridiques et politiques parce que ça vous concerne et qu'on ne peut pas être simplement des artistes lunaires. Ou des génies, comme tu disais. Quoi d'autre ? N'ayez pas peur de la légitimité de votre métier. Vous faites un métier avec le droit à votre corps à être en bonne santé, à votre mental à être en bonne santé, à ne pas vous faire harceler moralement ou sexuellement. Et en début de carrière, vous ne vous sentez pas légitime en tant qu'auteur ou autrice, mais vous devez être légitime de facto en tant que personne qui veut travailler. J'oublie quelque chose ? C'est pas mal ?
En dernier recours, l'autodéfense, apprendre le kung-fu peut-être, même si la violence ne résout rien, en dernier recours, la dissuasion nucléaire, comme tu disais.
Connaissance et communication sont la vertu de je ne sais pas quoi à la suite. Question du public. Question dans la
salle. Bonjour, merci pour cette table ronde. Moi, j'avais deux questions. La première, c'était presque une leçon de kit de survie. Quand on est scénariste, comment est-ce qu'on gère l'attente, que ce soit en long ou en court-métrage, si vous aviez des conseils là-dessus. Et la deuxième, c'était ce que vous avez dit tout à l'heure sur les questions de réécriture. J'étais très étonnée d'entendre la question de 14 réécritures sur les... J'ai oublié le terme de ce dont vous avez parlé tout à l'heure. Comment est-ce que... Voilà, moi, le contrat que j'avais signé, on était à, je crois, 4 ou 5 réécritures, mais comment, quand est-ce qu'on dépasse, comment est-ce qu'on gère même avec une agence, c'est question de, on va dire, l'épuisement de la réécriture.
L'épuisement de la réécriture, je ne sais pas. Mais moi, je trouve que pour le coup, effectivement, c'est pour ça que contractuellement, on se base sur ces versions-là. C'est vraiment continuer. Et je trouve que la vision du travailleur, c'est vraiment... la meilleure, c'est-à-dire mais vous croyez vraiment qu'au bout de 14 versions, on va continuer à faire des choses bien, enfin en tout cas c'est vraiment ramener dans la négociation, donc en amont, ces questions-là en disant mais c'est pas possible en fait, c'est-à-dire que si on arrive à tant de versions que ça, c'est qu'il y a un problème, donc on ne va pas déjà se mettre dans cette situation-là. Donc pour moi, et c'est pour ça que je le disais, c'est vraiment des choses que nous on essaie de traiter en amont dans la négociation des contrats, pour ne pas arriver à ce moment-là, parce que évidemment, c'est qu'on n'est pas en train de faire du bon travail à ce moment-là. C'est aussi lié pour moi à la question de la rémunération. Moi, je m'en sers, on s'en sert, quand notamment les personnes nous donnent les minimaux par l'accord, notamment en fiction, en audiovisuel, enfin en télé. Moi je dis vous voulez le minimum, nous on vous fait le service minimum, parce qu'en fait ça c'est pas le tarif, Ça, c'est le service minimum. Donc, si tu as le service minimum, à ce moment-là, un, déjà, nous, ce qu'on fait, c'est que il peut pas y avoir, ça ne peut pas être réduit pour quelque raison que ce soit. C'est le minimum, donc on reste au minimum. Et la deuxième chose, c'est pour ce minimum-là, bah, tu as deux ou trois versions. Voilà. Si tu veux des versions supplémentaires, tu payes en plus. Et on peut le dire. Et ils vont dire, oui, mais peut-être que j'aurais besoin d'une... Ben, si tu as besoin d'une version supplémentaire, très bien, tu la payes à ce moment-là. Mais les gens, quand ils se disent, j'ai 14 versions, ben, en fait, ils vont les utiliser, les 14 versions. Donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment en amont, pour moi, qu'on traite ça. C'est dans un contexte aussi économique. Ben non, justement, je ne suis pas l'œuvre, je suis une personne, j'écris cette œuvre. Donc, pour tes 6000 euros, je ne vais pas te faire un nombre de versions illimité. Et c'est ça qui est important pour moi dans la négociation individuelle, mais aussi dans la mise en œuvre collective. Donc certes, il n'y a pas de sanctions par rapport au fait si les producteurs, les productrices ne respectent pas les accords, mais on a quand même des moyens de faire remonter l'information de manière justement collective et structurelle. Donc nous, notre syndicat des agents, on fait remonter les problèmes qu'on a avec l'application des accords jusqu'au ministère de la Culture. Est-ce que ça change quelque chose ? Je ne sais pas, mais en tout cas, on peut suivre comment ça se fait. Donc ça, c'est important pour moi de suivre, de faire du suivi et de l'évaluation de comment c'est fait. Donc après, on pourra aller chercher les sanctions. Après, votre première question, je pense qu'il y a d'autres personnes plus que moi qui seront en mesure de réagir sur qu'est-ce qu'on fait en attendant. Nous, ce qu'on dit aux auteurs et aux autrices, bah, c'est en attendant les financements, bah, en fait, on travaille sur d'autres projets. En fait, c'est difficile aujourd'hui. Enfin, nous, ça, c'est un constat. Non pas que je milite pour ça, mais c'est un constat. C'est difficile aujourd'hui de vivre de ce métier en n'ayant qu'un seul projet. Donc, en fait, ce qu'on va faire... Et j'ai entendu un podcast hyper intéressant, très drôle. Et à un moment donné, c'est un scénariste qui dit oui. Alors, il y a une espèce de dieu des scénaristes qui fait que, qu'en fait, si on prend trop de projets en même temps, de toute façon, il y en a toujours un qui va se décaler et on va toujours trouver le moyen de le faire. Bah, comme on font les auteuristes aujourd'hui, c'est vraiment de travailler sur 3, 4, 5, 6, 7 projets en même temps. Ce n'est pas toujours possible pour tout le monde. Moi, j'ai une de mes autrices qui travaille beaucoup qui m'a dit « Mais moi, au bout de 3 projets, je ne peux plus. En fait, c'est trop compliqué pour moi mentalement. » Et donc ça, je pense que c'est aussi chacun qui va trouver. Et donc, c'est quand on parle justement, quand tu disais bah, « voilà, il faut avoir un peu une analyse de ce qu'on veut, sa feuille de route, le benchmark. Bah, » Ça en fait partie. Moi, je sais que cette autrice, elle ne peut pas faire plus que 3 projets en même temps. Donc, il faut qu'avec ces 3 projets qu'elle aura, il faut qu'elle vive correctement. Contrairement peut-être à d'autres qui, eux, peuvent faire 4 ou 5 projets ou 6 projets en même temps. J'ai une autre autrice qu'elle peut en faire genre 7 en même temps. Bon, bah là, on a plutôt des questions de planning et moins des questions de rémunération. Donc, je pense que c'est chacun analyser aussi comment vous arrivez à travailler. Mais aujourd'hui, un seul projet pour en vivre et pour en faire son métier, c'est très compliqué.
Oui, je voudrais juste ajouter, c'est peut-être d'avoir aussi un regard de son métier un peu plus par le prisme d'une logique artisanale. Souvent, on sépare les artisans et les artistes parce que c'est un gros mot de comparer les artistes aux artisans. Moi, j'ai envie de dire au contraire, mais réveillez le plombier ou le boulanger qui sommeille en vous, en fait, parce qu'eux n'ont pas de problème de légitimité quand ils viennent vous prendre 200 balles pour juste vérifier pourquoi la chaudière, elle s'est mise en sécurité, en fait. Et peut-être que si on commençait simplement par... Non, mais c'est vrai, de regarder ça autrement, quoi. Mais oui, mais bien sûr, le boulanger ne dit pas « Tenez, prenez tous ces pains gratuitement là, parce que je suis en quête d'une légitimité. » Non, mais stop, en fait. Il faut vraiment changer ce paradigme-là, quoi.
Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette exposition. Peut-être j'ai raté quelque chose. Je ne sais pas si je n'ai pas bien compris. Mais est-ce qu'il y a ici en France... un site d'une association, soit du syndicat ou d'une association des scénaristes, qui met clairement le minimum, comment on doit être payé. Je pose cette question parce que mon premier long métrage que j'ai écrit, c'était au Brésil, et j'étais, c'était mon premier long métrage, mais pour un très grand producteur. Et ce qui m'a très beaucoup aidé, c'était que il y avait le site des grands scénaristes. Ils ont une association, mais c'est les meilleurs scénaristes très connus. Et ils ont mis dans ce site l'information de combien on devrait gagner. Et moi, comme débutante, face à un grand producteur, j'ai simplement dit, moi, je ne peux pas gagner moins que ça. Et donc, c'est comme ça que j'avais quelque chose en main. Je ne sais pas, ici, est-ce qu'il y a ça ?
Alors, non. Enfin, vous pouvez trouver... sur le site des syndicats, de la SACD, du CNC, vous allez pouvoir trouver des accords qui s'appliquent à chacune des branches. Sachant que pour le cinéma, l'accord est un peu... Enfin, pour l'instant, on n'est pas sûr que cet accord s'applique à tous. Donc il va y avoir seulement des accords pour la fiction télé et pour l'animation et pour le documentaire, mais seulement sur une petite partie du documentaire. Donc aujourd'hui, non. C'est pas comme la WGA. On n'a pas un endroit où on vous dit combien vous devez demander pour tel ou tel ou tel travail. Non. Après, vous pouvez aller voir dans chacun des accords, faire des calculs sur ces accords-là. Peut-être que c'est quelque chose à demander à faire au syndicat, pour le coup, d'avoir une espèce de récap de qu'est-ce que ça veut dire. Parce que dans les accords, vous allez avoir des montants, notamment, qui sont par minute. Donc, ça ne veut pas vouloir vous dire grand-chose. Bon, après, c'est qu'une multiplication, mais on va vous dire c'est temps par minute ou c'est temps par heure, etc. En fonction du diffuseur, il y a des diffuseurs, ça ne s'applique pas. Donc, il y a un peu de compréhension de faire des accords. Donc, aujourd'hui, la réponse est non. Vous ne pouvez pas trouver pour un 52 minutes chez TF1 quel est le minimum. C'est pas très compliqué à faire aujourd'hui et ça pourrait être fait par un syndicat. Ça peut être une suggestion pour la télévision et pour l'animation. Par contre, pour le cinéma, non, pour l'instant, ça va pas être possible.
Petite limitation dans le droit, c'est parce que comme vous êtes des indépendants, le fait de se mettre d'accord sur des tarifs minimums, ça peut être à la limite vu aussi comme des ententes illicites en regard du droit de la concurrence. Donc on est un petit peu quand même, on y va à tâtons. Mais en fait, nous, les tarifs de la charte aujourd'hui ont été mis en place. Donc quand vous faites une intervention, il y a un minimum qui ne peut pas être négocié, enfin qui n'est plus négocié. Et en fait, ça s'est installé progressivement. Donc c'est peut-être effectivement une piste d'avenir possible pour les métiers de la création d'avoir des minimums recommandés qui seraient validés chaque année, augmentés en regard de l'augmentation du prix de la vie. C'est une belle perspective.
Il y a deux choses aussi en complément de réponse. Le CNC édite des statistiques chaque année du salaire médian, parce que les contrats sont tous déclarés à un registre public, hein, quand même, il faut le savoir. On peut consulter gratuitement ces contrats, les contrats de tous les films qui sont produits, hein, de savoir combien les gens ont été rémunérés. Donc il y a une moyenne qui est faite chaque année par un observatoire du CNC pour dire voilà, un scénariste gagne en moyenne sur un long métrage tant, voilà, selon qu'il soit un homme, une femme, etc. Donc c'est toujours intéressant de le lire puisque c'est édité chaque année. Et puis vous parliez de chartes de rémunération, mais ça existe déjà par exemple fait par nos amis des lecteurs anonymes qui ont mis en place des guides de recommandation en fait. Pour dire, voilà, vous ne devriez pas accepter un montant inférieur à celui-là pour une fiche de lecture, pour une consultation, etc. Donc, c'est aussi voilà, des associations, des syndicats qui peuvent conseiller. Bien entendu, après, ça reste toujours des bases de négociation pour la suite.
Merci beaucoup pour cette table ronde qui est quand même très importante. Je ne vais pas parler de toute mon expérience parce qu'elle est un peu longue, mais... Je voulais signaler à tout le monde ici, moi je viens du métier d'intermittente du spectacle, que je suis en train de perdre, je suis passée au scénario et à la réalisation. Je viens du métier actrice et technicienne de cinéma et voilà, je me suis mise en 2025 à écrire, à faire des films et je m'aperçois que c'est vraiment une calamité, une catastrophe. Et je voulais raconter qu'en 2025, je me suis inscrite sur conseil de gens avec qui j'ai dialogué dans les festivals à La Garde, je fais de la fiction et du documentaire. Et j'ai rencontré malheureusement il y a 2 ans ici, heureusement et malheureusement. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir un prix dans le dispositif Ça tourne en Île-de-France qui est Clash cette année. Ma comédienne a eu une mention spéciale du jury. J'ai été abordée par un jeune producteur et j'avais un documentaire que j'avais commencé à tourner et cette personne a bloqué mon film en commande d'écriture pendant 15 mois. Donc je voulais vous raconter l'expérience qu'au bout de 15 mois, moi je me suis retrouvée donc au RSA en quasi-dépression et j'arrivais, je moulinais, j'ai écrit d'autres choses. Et donc, je me suis inscrite dans un syndicat qui s'appelle La Garde. Donc, moi, je suis une vieille, je suis une daronne, je suis une boumeuse. Donc, les syndicats, je suis un peu flippée là-dessus. Et ben, je me suis inscrite à La Garde. Et La Garde m'a... Alors, La Garde, c'est l'équivalent de la guilde des scénaristes pour la fiction, mais pour les réalisateurs et les réalisatrices de documentaires et de journalistes reporters, dans lequel il y a encore plus de précarité qu'en fiction parce que c'est moins payé, le documentaire. Donc, c'est un enfer. Ils ont réussi, donc on a réussi finalement à aller à l'AMAPA. La juriste, elle a tenu bon sur des jeunes producteurs qui pensaient qu'ils avaient raison. Ils m'ont fait une commande d'écriture et derrière, ils m'ont bloqué 15 mois. L'AMAPA m'a débloqué, j'ai eu une indemnité. Et ces jeunes producteurs, aujourd'hui, s'ils font leur film, où il y a quand même du plagiat, ils sont obligés de me mettre au générique en remerciement. Comme quoi, mon film, les recherches de mon film, pour pas qu'il y ait de litige derrière, ont inspiré leur propre film. Donc, ils sont obligés de me citer en nom propre et de dire que voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai récupéré mon 4e dossier. Ça fait 3 ans que je travaille sur ce film, bientôt 4. Et voilà. Et demain, comme j'avais déjà tourné en crowdfunding un quart du film, demain, je vais pouvoir passer le concours du Grec et le proposer au Rush, au Grec, un premier court-métrage. Et voilà. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que rapprochez-vous des guildes, rapprochez-vous des assos. Moi, La Garde et La MAPA, je leur baise les pieds parce que non content d'avoir repris l'estime de moi et mon film et de m'être fait indemniser 1500 euros, c'est rien. C'est 100 euros par mois. Ils m'ont bloqué 15 mois. Mais n'empêche qu'il y a un truc, c'est qu'aujourd'hui, ces gens-là ne font plus de malversations. Ils ont été virés du FJPI parce que La Garde et le FJPI bossent ensemble. Donc les syndicats de producteurs et les syndicats d'auteurs bossent ensemble à améliorer. Donc il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas rester d'un côté ou de l'autre dans la paroisse. Et ce qui est extraordinaire, et vraiment je voulais vous le partager en espoir, c'est que le jour où j'ai touché ces 1500 balles, j'avais un autre film dans la tête. J'ai écrit une Bible en 15 jours. 16 pages, 15 jours, c'est parti comme ça. Et là, ça y est, j'ai tous mes projets qui repartent parce que j'ai débloqué au niveau psy le truc de victimisation. Je n'ai pas que débloqué mon film grâce aux syndicats et grâce aux gens qui se battent pour nous, mais j'ai aussi débloqué toute ma créativité et mon imaginaire qui était coincé depuis un an et demi. Et j'étais vraiment au dernier degré du dénigrement de moi-même en tant qu'autrice.
Merci. Voilà. Je vous coupe un peu pour qu'il y ait le temps pour une autre question, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, la précarité revient très vite et il ne faut pas le voir comme un échec, il faut plutôt le voir comme ce qu'on a expliqué, des conditions de métier difficiles à mettre en place, des carrières qu'on mette du temps à se stabiliser. Et de toute façon, beaucoup de scénaristes font souvent d'autres métiers à côté, soit des trucs purement alimentaires, soit des choses plus ou moins en lien. Et ça n'empêche pas de continuer à voir le biais qu'on vous a proposé aujourd'hui et d'être offensive. Madame, une question.
Bonjour. Je voulais juste demander, on a une amie, nous on a un collectif de scénaristes réalisatrices justement, et on a une amie qui ne jure que parce qu'elle n'a pas d'agent, par la SACD quand elle a besoin de conseils. Et je vois que vous n'en avez pas parlé. Je me demandais si c'est parce que vous estimez que ce n'est pas toujours bien ou si juste que vous n'y avez pas pensé ou que...
Okay. En fait, oui, si on l'a en tête, c'est juste qu'on sait que tout le monde plus ou moins le connaît. Après, j'ai envie de dire, ça dépend des expériences personnelles, parce que si vous êtes sur des cas un peu tordus, enfin moi j'ai une amie par exemple qui a fait du spectacle vivant et elle avait un litige avec une compagnie sur un truc de texte écrit, etc. Et la personne n'a pas su complètement. Enfin, il y a toujours des recherches en plus qu'ils n'ont pas toujours le temps de faire. Donc des fois, ça ne suffit pas. Mais c'est pas faute de bonne volonté.
C'est bien de dire que ça existe, mais surtout, ça reste un contrat type qu'ils proposent. Et un contrat type qu'ils ne vont pas particulièrement négocier pour vous, en fait. Ils vont juste vous dire, voilà, il y a un contrat type à peu près correct. Oui, ils peuvent conseiller juridiquement, mais après, ce n'est pas un accompagnement à la négociation identique au travail d'un agent. Mais c'est vrai que ça existe pour ceux qui cherchent des conseils juridiques, c'est gratuit quand même, hein, il faut le dire aussi. Et il y a un contrat type qui existe. Après, bon, il a aussi ses défauts et voilà.
Et puis l'objectif, c'est évidemment d'abord d'être membre de la SACD, ce qui implique que son œuvre a déjà fait l'objet d'une exploitation ou d'une diffusion, ce qui est évidemment pas le cas de beaucoup de scénaristes qui n'ont pas encore obtenu cette exploitation de l'œuvre. Donc en fait, c'est pour ça qu'on parle aussi des syndicats, c'est que ceux-là sont là tout au long de la vie du scénariste, y compris en amont de l'exploitation de l'œuvre, quand il est dans dans son activité de création, dans son travail de création.
Ce qui est important de dire quand même, c'est rappeler que la SACD est un organisme de gestion collective. Son travail, ce n'est pas l'amont, c'est l'aval, c'est récupérer en fait les droits d'exploitation des œuvres. Ce n'est pas négocier au nom de la profession et des scénaristes leurs droits en fait. Théoriquement, c'est pas leur rôle de négocier nos contrats, puisqu'ils ne s'occupent que d'une exploitation, ce qui est déjà très important, hein, puisqu'il s'agit quand même d'une grande part de notre rémunération. Mais ça pose aussi des questions de représentativité qu'on a évoquées tout à l'heure.
Bonjour. Je voulais savoir comment on lutte contre les abus de langage en dehors des contrats avec les producteurs. On ne va pas parler de la pré-Bible, mais des versionnings qui n'en sont pas, des corrections, mais ça ne compte pas vraiment comme une version, parce qu'on ne va pas à chaque fois réappeler son agent pour chaque étape. Donc comment on fait tout seul ?
Oui, c'est difficile. Nous, ce qu'on fait, notre habitude, c'est effectivement pas à chaque fois, parce que bon, déjà, c'est beaucoup de communication là-dessus, mais c'est utiliser la carte, j'ai un peu envie de dire, de l'agent quand c'est trop, quoi. C'est-à-dire, effectivement, nous, on négocie un nombre de versions. Ce nombre de versions, il est toujours un peu flou, parce que est-ce que ça, c'était vraiment une nouvelle version, etc. etc. Je trouve que de le mettre contractuellement, et notamment de négocier contractuellement, bah, ça permet justement que l'agent ou l'agente soit légitime à revenir sur cette question. Donc en fait, c'est aussi pour ça que nous, on le fait contractuellement, et c'est vraiment quelque chose qu'on fait beaucoup. C'est que ça nous permet de dire que justement, on sort de la relation individuelle, justement, oui, tu me referas une version pour la semaine prochaine, pour justement remettre ça dans une relation qui est contractuelle. Voilà. Après, moi, je remarque dans les plus jeunes, je ne dis pas les émergents, là, je veux parler des jeunes scénaristes qu'on représente, que c'est quelque chose, un peu comme tu dis, bah voilà, on s'excuse pas, votre plombier, il s'excuse pas de vous prendre 200 balles pour voir pourquoi votre chaudière, elle est machin. Moi, je remarque que c'est quelque chose qui... Enfin, ce réflexe un peu d'accepter, de réécrire, c'est de moins en moins facile pour les plus jeunes d'entre vous, et j'en suis absolument ravie. Je trouve que on s'approche justement de la vision de l'artisan. Bah ouais, en fait, il faut que je recommence le vitrail que tu m'as demandé. Bah, en fait, ça va me demander du temps, ça va me demander, et donc toi, ça va te demander de l'argent. Donc moi, je suis vraiment un peu comme les accords, c'est toujours imparfait, mais plus on suit cette évolution, plus on peut réagir. Et donc nous, effectivement, on ne réagit pas forcément quand on nous a demandé une ou deux versions supplémentaires. Par contre, au bout de la quatrième, bah, là, en fait, ça va être un grand non, parce qu'il y a les trois dernières. Mais il y a encore beaucoup de flou et un peu d'appréciation personnelle. Mais en tout cas, de le mettre contractuellement, ça permet qu'à un moment donné, on soit légitime. Et avant, on ne l'était pas du tout. Et c'était vraiment que l'interpersonnel.
Pour compléter un tout petit peu, aussi, même en dehors de la discussion avec ton agent, il y a un truc qui peut être... au départ, c'est aussi de bien définir les termes, parce que tu dis pré-Bible et tout ça. Et c'est vrai que la définition de texte qu'on est censé rendre, elle peut être très mouvante, surtout au début. Et il y a effectivement une discussion à avoir au début pour poser. Ok, pré-Bible, c'est pas censé exister. Si tu mets ce mot-là, c'est que tu veux pas me payer une Bible. Mais du coup, c'est combien, c'est quoi les éléments ? Enfin, que le tout soit le plus dit possible, surtout quand ce sont des éléments qui échappent aux vagues négociations collectives qu'il y a eu. Il me semble que la pré-Bible, ça n'existe pas, si. Si, ça existe. Non, ça n'existe pas. Donc c'est effectivement un mot, mais c'est comme un moment quand en animation, le pitch d'un coup est devenu un document qui fait 15 lignes max, mais du coup on invente les pré-pitch parce que c'est un petit peu avant, et du coup c'est avant le contrat. Bon, Je ne sais pas s'il y a des vraies solutions pour empêcher complètement ça, à part de verbaliser tout le temps et de se mettre d'accord en disant « Bon, bah, moi, je te fais 3 lignes de pitch, mais si, une fois que j'aurai fait ça, tu me le valides. » Et après, j'écris un vrai pitch et qui obéit à ce que la négociation collective a créé jusqu'à maintenant. Tu voulais compléter ?
Oui, moi, je voulais juste ajouter, excuse-moi, effectivement... je vais dire du bien des accords, ça a au moins eu l'intérêt de mettre des mots sur chaque étape. Et ça, ça nous a vraiment, vraiment beaucoup aidé. Avec le nombre de pages, c'est justement, c'est quoi un pitch, c'est quoi un sino, c'est quoi un traitement, etc., etc. Et ça, c'est un grand avantage. Parce que justement, on peut contractuellement ou dans nos échanges justement bilatéraux avec les producteurs et les productrices, utiliser les termes qui sont associés et de dire bah non, un traitement c'est tant de pages, donc si tu me demandes un truc de 20 pages c'est pas un traitement, et ça on peut s'en servir, et ça pour le coup il y a très peu de contentieux justement là-dessus, autant sur les montants on n'est pas d'accord, autant sur les mots, les termes c'est très clair. Et moi ce que j'ai envie de dire c'est aussi passer par l'écrit, on est tous avec des mails, des WhatsApp, etc., etc. Numérotez vos versions, passez par les écrits, dites voilà, tu m'as demandé de réécrire ce truc-là, voilà, tout ça, ça nous sert quand on a des contentieux et qui vont juste effectivement jusqu'en médiation. Ben, en fait, on a la preuve qu'on a fait 57 versions du truc.
Ouais, il faut être un peu procédurier. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parle au téléphone avec son co-contractant, il ne faut pas hésiter à reformuler tout par mail de façon à vraiment se mettre dans cette démarche de « au cas où ». Voilà. Et pour la différence entre correction et, on va dire, modification substantielle, ben, je pense qu'en fait, il y a effectivement les accords qui peuvent nous donner des indices, mais on peut aussi avoir notre propre acceptation de ce que l'on va entendre par correction ou de ce que l'on doit justement considérer comme substantiel au point que ça vient impliquer une nouvelle version. Et c'est à ce moment-là, bah, en tant que co-contractant, de dire j'estime que ça dépasse largement le simple stade des corrections. Je considère donc que c'est une nouvelle modification substantielle qui amène cette qualification. Enfin, il y a plein de techniques juridiques comme ça qui sont pas très... Il faut les connaître, évidemment, mais elles sont à portée de main.
Trace écrite, toujours. Dernière question courte pour une réponse courte, s'il vous plaît. Il y en a deux, alors est-ce qu'elles ont un lien ? Est-ce qu'on peut les mixer ? On prend les deux si elles sont très courtes.
Ouais, vous l'avez peut-être dit tout à l'heure, les accords, ils ont été accordés entre qui, je ne sais plus.
Ah bah, ça, c'est sur le site du CNC, de toute façon, c'est récapitulé, je crois.
Alors, les accords fiction... Et animation ont été conclus entre les producteurs, les syndicats de producteurs, ainsi que la Guilde et la SACD. Okay, sur le cinéma.
Les syndicats de producteurs et un
autre. La SRF.
La SRF.
Et le SCA.
Et, oui, bon.
Et c'est des accords qu'on peut trouver donc au CNC.
Oui, sur le site du CNC.
Tout est en ligne, tout est public.
Oui, bonjour. On parlait tout à l'heure de droits d'auteur. Comment est-ce qu'on partage les droits avec, lorsqu'il s'agit d'une adaptation avec le romancier ou...
Généralement, on s'en fiche du romancier. Hein.
Réponse courte.
Non, c'est voilà. Pareil, tout ça est vraiment de la négociation individuelle. Enfin,
tu veux rajouter ?
Bah, disons que le partage, en l'occurrence, se fait, je pense, ça dépend du romancier. Mais ça se fait soit en négociation individuelle, soit à l'aide d'un agent. Je sais pas comment tu gères ça.
En fait, le romancier, il va avoir dans son contrat, donc il va avoir deux contrats avec sa maison d'édition. Le premier, un pour l'édition. Le deuxième, qui cède les droits d'adaptation audiovisuelle. Donc dans ce contrat-là, qu'il aura effectivement négocié avec son éditeur, s'il a négocié ce contrat avec son éditeur, il va y avoir des montants qui disent, voilà, il va toucher combien si jamais il y a une adaptation de son film. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Donc ça, c'est comme ça. Et après, vous, si vous adaptez seul ou à plusieurs, mais sans le romancier ou la romancière, le projet, bah, vous aurez 100% de vos droits de scénariste sur le développement du projet. Après, il se peut que lui, justement, quand il a cédé ses droits d'adaptation audiovisuelle avec son éditeur, il ait demandé, par exemple, à être co-scénariste ou être consulté sur le scénario. Et donc là, à ce moment-là, s'il a cette obligation-là, le producteur, la productrice devra effectivement l'associer au scénario. Et là, ça va être du gré à gré, donc entre lui et le producteur et entre vous et le producteur sur le partage des rémunérations. Donc ça va être une première partie. Donc ça, c'est dans la partie du développement. Après, quand vous arrivez à la SACD, c'est-à-dire une fois que le programme a été, le film, la série, etc., a été développé, produit et commence à être exploité, alors après, vous allez avoir effectivement un partage de droits SACD. Sur l'adaptation, ça se fait de manière automatique, j'ai un peu envie de dire. Donc il n'y a pas besoin de calculer combien vous avez gardé du roman. Le fait que ça soit adapté de ce roman-là, ça suffit. Par contre, si l'auteur ou l'autrice du roman est co-scénariste avec vous, bah, ça sera encore une fois de la négociation de gré à gré, cette fois, mais entre vous et vos co-scénaristes, comme si c'était un autre co-scénariste. Et là, ça va être une négociation entre vous de savoir comment vous vous partagez les droits du scénario. Donc ça, dans lequel le producteur ou les agents, même si nous on peut conseiller, on peut avoir des grilles de lecture, ne vont pas forcément rentrer et ça peut poser quelques problèmes.
Merci.
Merci, on va conclure cette table ronde sur ces mots. Merci de votre écoute, votre attention, une denrée précieuse aujourd'hui et commerciale. Donc, merci à vous, merci à nos intervenantes pour leur présence et leur sagesse, j'ai envie de dire. Et je laisse à Rémi le soin de vous apporter une petite annonce concernant ce soir.
Oui, en plus de cette énergie combative, je vous propose de chiller ce soir au Loft, le bar partenaire du festival, à partir de 21h. Rien de spécial, juste retrouvailles associatives de membres de la FAMS. Par contre, pour les festivaliers, festivalières, les premiers arrivés auront un verre offert gratuit. Oh, merci beaucoup.